Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Que la solution existe.
Soyez les bienvenus. Si nous sommes réunis ce soir, c'est pour qu'on nous informe sur un sujet. Parce que il y a des métiers qui s'apprennent dans les écoles ou des centres de formation. Mais il y a un métier que moi je connais, que nous connaissons tous, qui s'improvise, mais l'improvisation n'est pas toujours responsable. Donc, c'est le bon sens qui nous guide dans ce métier. Et ce métier, c'est le métier de parent. Nous allons inviter M. Guidibi pour qu'il partage avec nous quelques informations qui nous permettront de prendre nos responsabilités dans ce domaine. Merci et bonne écoute.
Bonsoir et bienvenue dans cette salle de formation. Alors, je suis très heureux d'être avec vous, surtout quand je sais que je n'ai affaire qu'à des parents. Lorsque la directrice du complexe, Mme Brahim, m'a invité à organiser avec elle cette séance, je lui ai dit, mais de quoi il va s'agir? Elle m'a dit, bon, je veux que tu parles avec mes parents. Elle dit, mais pour leur dire quoi, tes parents? Et quand nous avons commencé à discuter, le sujet m'a beaucoup intéressé parce qu'on me pose souvent une question dont la réponse est dans cette thématique de la responsabilité des parents ou je dirais simplement du métier de parent. Les gens me demandent souvent quel est le succès de ma réussite. Et je réponds souvent qu'il y a deux choses. D'abord Dieu. Dieu est toujours Dieu. Quand il donne, il a donné, personne ne peut vous prendre ça. Parce que si votre bonheur, si votre élévation doit dépendre des hommes, en tout cas, pour ce que je sais de la petite vie que j'ai vue, ça ne risque pas d'arriver. Donc, première chose, Dieu. Deuxième chose, et Dieu l'a aussi très bien dit, il dit, honore ton père et ta mère pour avoir des jours heureux sur terre. La deuxième chose, en dehors de Dieu, qui garantit normalement à un enfant d'avoir des jours heureux sur terre, c'est d'honorer ses parents. C'est-à-dire que si un enfant obéit à ses parents, si un enfant honore ses parents, il est pour Dieu de la responsabilité de ses parents-là, de lui garantir des jours heureux sur terre. Cela veut dire que si vos enfants restent dans votre maison, ils vous suivent globalement, et que vous êtes incapable de leur garantir des jours heureux sur terre, vous devrez rendre des comptes à Dieu. Ce que je dis là, je ne blague pas. Beaucoup de gens sont malheureux. Beaucoup de gens meurent dans la tristesse, dans le chagrin. Et parfois, beaucoup de gens sont tués parce qu'ils ont été incapables d'assumer cette responsabilité de parents. Si vous n'éduquez pas bien vos enfants, ils deviendront votre chagrin. D'abord, ils vont échouer. Et donc, s'ils échouent, à l'âge où vous devriez commencer à vous reposer et à jouir d'eux, ils resteront un fardeau pour vous. S'ils échouent, ils vous coûteront très cher. S'ils échouent, ils vous donneront des soucis. Et ces soucis-là vont vous donner l'hypertension. Cette hypertension va vous tuer. Même si vous devenez riche vous-même, à force de ne pas vous occuper d'eux, de ne courir que derrière l'argent, Ils vont se battre entre eux. Quand vos enfants n'ont rien, quand ils ont échoué, plus vous avez amassé de l'argent, plus ils se battront. Et vous allez être vivant, voir votre famille s'éclater, s'entre-déchirer, devenir une jungle. Et il n'y a pas pire que ça pour donner du chagrin à un père ou une mère. Et je passe beaucoup d'autres détails. Pour dire que, à la limite, la seule raison d'être d'un adulte, c'est d'être parent et de réussir à jouer son rôle de parent, de sorte à garantir des jours heureux à ses enfants. Et moi, je le dis sans aucun complexe, la principale explication de mon succès tient tout simplement à mes parents, il n'y en a pas deux. Je suis ce que mes parents m'ont programmé pour être. Parce que chaque enfant naît plus ou moins vierge. C'est comme un ordinateur, ça a un disque dur. Donc c'est vierge. Si vous installez dessus un logiciel pour faire du traitement de texte, Word par exemple, ça va faire du traitement de texte, ça ne va pas faire de tableur. Si vous installez dessus un logiciel pour faire la musique, ça fera la musique, ça ne fera pas de traitement de texte. Ça ne veut pas dire que l'enfant est capable ou n'est pas capable. L'enfant naît brut, vierge. C'est à vous de le formater, de le programmer comme vous voulez. Si vous le programmez pour échouer, il n'y a rien qu'il puisse faire pour ne pas échouer. Et si vous le programmez pour réussir, il n'y a rien qu'il puisse faire pour ne pas réussir, parce que tout système fait ce qu'il est programmé pour faire. Il y a des gens, vous les voyez dans la vie, ils se débattent, mais ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce qu'ils sont programmés pour échouer. Le reste, c'est qu'ils ne savent pas, ils se fatiguent. À moins qu'un jour, quelqu'un vienne les reprogrammer, comme les informaticiens reprogramment parfois une machine, celui que vous avez programmé pour échouer, échouera toujours. Je vous donnerai peut-être quelques exemples par la suite. Et je suis de ceux dont la seule chance est d'avoir eu une mère et un père qui m'ont programmé pour être qui je suis. Après, quel que soit ce qui se passe dans la vie, quand vous êtes bien programmé, vous traverserez la vie. Mais programmer un enfant, réussir à programmer un enfant pour réussir, ne peut pas se faire par hasard. C'est un travail, c'est un métier, peut-être le métier le plus important que vous ayez. Ce n'est pas la chose qu'on fait quand on n'a rien à faire, c'est la principale raison d'être d'un adulte. C'est pour ça que certains disent, si on ne peut pas s'occuper d'un enfant, il vaut mieux ne pas en avoir. Mais ne faites pas des enfants si vous n'êtes pas capable de vous occuper de les rendre heureux. Et pour vous dire que certains métiers, dans certains pays, comme par exemple la Malaisie, qui est un bon exemple de cela, on ne fait pas des enfants comme on veut. Avant de se marier, il faut suivre des cours sur comment vivre en couple, mais surtout comment éduquer et gérer des enfants. Si vous ne réussissez pas ces cours-là, on ne vous autorise pas à vous marier, à avoir des enfants. Et si vous faites des enfants malgré cela, on vous donne des amendes et parfois ça va jusqu'à la prison. Quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire d'enfermer les gens ? Parce que sans avoir réussi le coup, ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Mais les Malaisiens m'ont répondu ceci. Notre pays doit être un grand pays. Un pays qui est grand, c'est un pays fait de grands hommes. De grands hommes, c'est des enfants éduqués pour être de grands hommes. Si les parents dans un pays éduquent mal les enfants, ils fabriquent des voleurs, des corrompus, des voyous, des escrocs, des homosexuels. Tout ce que vous voyez là et que nous décrions est le produit d'un parent qui, quelque part, a mal éduqué son enfant. S'il y a un voleur qui vole des motos, c'est un djimanklon. Quand on dit djimanklon, en fait, on insulte davantage celui qui est éduqué que l'enfant. Tous les problèmes de la société sont le produit de parents qui n'ont pas joué leur rôle et qui, là où la vie, là où le pays, là où la nature leur a confié une vie, au lieu d'en faire une vie qui réussit, ils en ont fait une calamité qui devient un problème pour tout le monde. Parfois, c'est des parents qui ne sont plus et dont les gens de la même génération, les oncles, les tantes, n'ont pas pu faire le boulot. Et donc, dans cette vision-là, la Malaisie dit, je ne veux pas que qui que ce soit me fabrique des enfants si je n'ai pas la garantie qu'il est capable d'en faire de grands hommes. Et quand on a créé au Bénin, par exemple, le ministère de la Famille, je rêvais de quelque chose comme ça. Bon, manifestement, on a créé ça sans savoir ce que ça veut dire. Mais quand on dit ministère de la Famille, c'est normalement un endroit où on pense une politique pour la famille. Ça doit être un endroit où on s'assure que la famille naît, a les conditions de succès et est capable de faire son travail, qui est de fabriquer des grands hommes. S'il doit y avoir la paix dans un pays, c'est une question de l'éducation qu'on donne aux enfants. Si on doit avoir des gens travailleurs, c'est une question de l'éducation qu'on donne aux enfants. Si on doit avoir des gens honnêtes, c'est une question de l'éducation qu'on donne aux enfants. Et donc, pour vous-même, pour ces enfants, pour le pays, vous avez non seulement le droit, mais le devoir de vous occuper et de réussir l'éducation de vos enfants. Cela étant, nous tombons pour la plupart dans une grave erreur, celle de confondre éduquer un enfant et donner les moyens à un enfant. Ce n'est pas la même chose. L'éducation d'un enfant ne peut pas bien se faire s'il n'a pas un minimum de moyens. D'accord. Et il ne faut pas que votre enfant manque de faim, meure de faim, qu'il n'ait pas de quoi s'habiller, des choses comme ça. Ça, c'est important. Et je suppose que si vous êtes là, bien habillé comme je vous vois, à l'école de Madame Braille, à d'autres écoles du même genre, vous n'êtes certainement pas, je rends grâce à Dieu, des parents qui vont laisser leurs enfants mourir de faim. Mais il y a pire que des parents qui laissent mourir leurs enfants de faim.
C'est les parents qui croient qu'il suffit que l'argent soit là pour que l'enfant soit éduqué. Et qu'ils sont en train de s'occuper de leurs affaires, ils partent le matin à 7h, ils reviennent le soir à 2h du matin, ils ne voient presque jamais leur enfant, qu'ils abandonnent soit la maman, enfin encore c'est bon, mais comme toutes les mamans veulent travailler maintenant comme les papas, pauvres des enfants, c'est pas par hasard que Dieu avait dit que le maman devait rester à la maison, c'est pas par hasard qu'on dit « Nyon nous kwesi, sous nous glebenou ». Il ne faut pas inverser les choses dans la vie. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Dieu qui a prévu qu'une grande dame s'occupe de faire de grands hommes dans sa maison et pas de courir pour avoir un petit salaire de 30 000 comme secrétaire n'était pas un imbécile. Vous allez voir que plus on parle d'émancipation des femmes, plus on sort les femmes de la maison, plus les femmes sont malheureuses, plus les hommes sont malheureux et plus les enfants sont malheureux. Tout le monde est malheureux. Parce qu'aujourd'hui, c'est les domestiques, c'est les chauffeurs, c'est le planton, c'est les amis du quartier, c'est les amis de l'école. C'est tout sauf quelque chose de bien. Et puis, c'est la télé qui éduque vos enfants. Donc, vous mettez parfois beaucoup de moyens pour accroître la dépravation de vos enfants. Un enfant qui a la télé, qui a les chaînes internationales, qui a l'argent pour acheter les DVD qu'il veut, qui peut acheter des films pornographiques et tout ça, et dont les parents n'est pas là, est plus en danger qu'un enfant qui n'a même pas les moyens. Beaucoup d'entre nous mettons beaucoup d'efforts, Dieu merci, à acquérir des moyens pour nos enfants, à leur offrir une bonne scolarité, à leur offrir une bonne maison et qu'on sort. Mais nous croyons qu'il suffit de mettre l'argent pour que les enfants soient éduqués. Non, rien ne remplacera jamais le temps passé par une père et une mère dans l'éducation de leurs enfants, pour suivre leurs enfants, pour voir ce que leurs enfants deviennent, pour parler à leurs enfants, pour écouter leurs enfants. C'est valable à tous les moments de la vie. C'est valable quand l'enfant est tout petit. Il y a des choses qui s'acquièrent avant que l'enfant n'ait 3 ans. Si vous manquez ça, il ne l'aura plus jamais. Il y a des choses qui s'acquièrent avant que l'enfant n'ait 7 ans. Vous les manquez, il ne les aura plus jamais. Il y a des choses dans l'adolescence, quand l'enfant va faire sa crise de puberté, si vous n'êtes pas là, ça peut devenir la catastrophe. À chaque moment de sa vie, l'enfant a besoin d'avoir des parents qui le coachent, qui le suivent, qui l'accompagnent. Mais trop souvent, nous ne voyons rien de tout cela passer. Bon, quand de temps en temps on est là, on joue le papa sévère qui interdit tout, mais on est à la maison combien de temps? Tu es papa sévère pendant 1 heure de temps par jour, au maximum. L'enfant vit pendant que tu n'es pas là. Et comme ça, je connais beaucoup de papas et de mamans qui disent, mais oui, je suis tellement sévère, mon enfant ne peut jamais, ne peut jamais. Le jour où leur fille prend une grossesse, jamais, c'est pas ma fille, c'est pas possible. Mais tu n'es jamais là. Elle passe 23 heures sur 24 sans toi. Quel que soit le point auquel tu es dû pendant 1 heure de temps, tu te blagues toi-même puisqu'elle vit hors de chez toi. Quand tu n'es pas là, tu ne sais pas ce qui se passe. Si ton enfant fait quand tu pars à 8 heures, tu n'arrives qu'à 23 heures, elle fait tout ce qu'elle veut jusqu'à 22 heures 45. Donc, tu peux venir faire le dû à 23 heures. La maison est parfaite à 23 heures. Mais tu te blagues, tu ne contrôles rien. Et nous avons comme ça des enfants qui sont des grands cas sociaux, mais que quand nous sommes là, c'est des anges, et puis on est fiers de nos enfants, on amène nos enfants en public, on fait le malin, alors que nous dormons sur des œufs pourris. Ça veut dire que rien ne peut remplacer le temps, l'amour qu'on donne à ses enfants. Moi, je prends le cas de mes filles, mais des fois, elles m'appellent pour dire, papa, aujourd'hui, là, tu ne peux pas laisser un peu tes clients et venir avec nous. Si tu ne reçois pas aujourd'hui, que tu le reçois demain, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai honte, parce que nous oublions que pour un enfant, le temps passé avec son père ou avec sa mère vaut plus que tout ce qu'on peut leur donner. À force même de leur donner des choses, nous ennuyons les enfants. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans. J'étais avec des amis en Côte d'Ivoire et on préparait Noël pour nos enfants. Et j'avais eu le même problème cette année. On se demandait quoi faire pour rendre Noël extraordinaire pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on pouvait leur faire de grand? Et on ne trouvait pas. On a cherché quel cadeau leur offrir, qu'est-ce qu'on pouvait faire, on n'a rien trouvé. On s'est dit, mais comment on fait pour ne rien trouver pour faire plaisir à nos enfants? Et on a découvert quelque chose. Plus vous avez des moyens, plus il vous est difficile de faire plaisir à vos enfants. Beaucoup d'enfants vivent un Noël extraordinaire parce que c'est à Noël qu'ils ont certaines choses. Il y a des enfants qui ne mangent des frites qu'à Noël. Il y a des enfants qui ne vont boire coca qu'à Noël. Il y a des enfants qui ne peuvent sortir pour aller à Magic Land qu'à Noël. Il y a des enfants qui ne reçoivent des jouets et quels jouets encore qu'à Noël. Mais dès que nous avons un peu de moyens, nos enfants ont ça tous les jours. Ils mangent ce qu'ils veulent tous les jours. Ils boivent ce qu'ils veulent tous les jours. Ils ont en plus son mic tous les jours. Quand on rentre, on est en ville, on voit un livre intéressant, on le achète. On voit un cadeau intéressant, on le achète. Ils vont à Magic Land quand ils veulent. Ils vont au cirque quand ils veulent. Mais tout ce que d'autres enfants ont le jour de Noël qui fait pour eux de Noël un moment extraordinaire de leur vie, dont on se rappelle toute sa vie. Moi, je me rappelle encore de mes Noëls, le jour où on ouvre des cadeaux, tout ça. Aujourd'hui, des enfants, des parents qui ont un peu de moyens là, Noël ne leur dit rien. Parce que rien ne peut se passer à Noël qu'ils n'ont jamais vu. C'est pas mauvais de s'occuper de nos enfants. Mais je dis ça seulement pour vous illustrer à quel point nos moyens peuvent faire en sorte que finalement, la vie de l'enfant, au lieu de devenir meilleure, à défaut de devenir plus mauvaise, en tout cas, n'est pas aussi bien que ça. Nous devons faire attention à toutes ces choses-là. Et savoir que le temps que nous passons avec nos enfants est très, très important. Nous ne pouvons pas déléguer nos enfants à quelqu'un. Quelqu'un peut nous aider à enseigner nos enfants. Mais personne ne doit éduquer vos enfants à votre place. Le maître, la maîtresse, quelle que soit sa qualité, a au moins 20 enfants, 30 enfants, 15 enfants devant elle. Donc, vous n'avez pas que votre enfant chez elle. Et même si c'était le cas, quelqu'un d'autre ne peut pas éduquer votre enfant à votre place. Parce que l'éducation, vous donnez à l'enfant sa personnalité. La personnalité de quelqu'un, c'est ça qui est cette personne. Comment vous pouvez laisser à n'importe qui de façonner la personnalité de votre enfant? Même quand on prend les familles, on dit les gens de telle famille sont de tel genre, tel est l'enfant de tel. On regarde sa personnalité. Mais aujourd'hui, beaucoup de nos enfants ont la personnalité de leur tata, de leur nounou, de leur domestique, de leur chauffeur, plutôt que la leur. Parce qu'ils ne sont pas là. Parce qu'ils ne peuvent pas influencer, n'étant pas suffisamment là, ou ne prenant pas le temps de le faire, la programmation qu'on est en train de faire de leurs enfants. S'il est vrai que l'école peut nous aider à enseigner la science, les mathématiques, le français à nos enfants, l'éducation de nos enfants, c'est à nous de le faire. Et si on ne le fait pas, personne ne le fera, à part la rue, à part la télé, à part les mauvais conseils, qui eux seront toujours rendez-vous. Cela veut dire qu'il faut réaliser l'importance de prendre le temps de programmer soi-même ses enfants. C'est une mission au-delà même de la morale spirituelle. Je vous donne un petit exemple. Il y en a même plein dans la Bible. Par exemple, quand vous prenez Moïse, quand Dieu a rencontré Moïse pendant qu'il était dans le désert, il lui a demandé de retourner en Égypte, délivrer les Égyptiens. Dieu venait donc de lui confier une grande mission d'État. Il n'y a rien de plus important que ça. Je ne sais pas qui parmi vous ici a un travail plus important que d'aller de la part de Dieu délivrer un peuple en captivité chez le pharaon le plus puissant de l'époque. C'est comme si on vous envoie délivrer des esclaves des mains d'Obama. Je ne pense pas que l'un d'entre vous ait reçu une mission plus importante que ça. Moïse va en mission. Et la Bible dit que sur le chemin de cette mission, Dieu l'intercepte, le frappe et a failli le tuer. Vous avez lu ça? Pourquoi? La Bible dit qu'il n'a eu la vie sauve que quand sa femme a circoncis leur fils et a jeté le propice devant l'ange. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? La circoncision dans la Bible est mise en métaphore pour la circoncision de cœur. La circoncision de cœur, c'est quoi? C'est l'éducation. C'est-à-dire le fait d'enlever au cœur de l'enfant qui naît, avec comme tout le monde, des tendances à faire du mal, des tendances à mentir, des tendances à être brutaux. Nous avons tous là la naissance. Depuis Adam et Ève, nous avons tous génétiquement une tendance à pécher, à être mauvais. Dieu s'attend des parents, et c'était le cas de Moïse, à ce qu'ils fassent la circoncision du cœur de leurs enfants. Moïse étant tellement occupé parce que Dieu lui a confié ou pas, je ne sais trop quoi d'autre, a négligé de le faire. Et la Bible nous enseigne que, quelle que soit la mission qu'il était en train de poursuivre, même si c'est Dieu lui-même qui lui a commandé, Dieu a manqué de le tuer simplement parce qu'il n'avait pas pris le temps de circoncire le cœur de son enfant. Et il n'a eu la vie sauf que cela. On va me dire, mais pourquoi Dieu peut vouloir tuer quelqu'un pour ça? Parce que quand vous ne circoncisez pas le cœur de votre enfant, vous faites passer Dieu pour un menteur. Comment? Dieu ne peut pas se contredire. Et tout ce que Dieu dit s'accomplit. Le jour où quelqu'un va démontrer que Dieu a dit quelque chose qui ne s'est pas accompli, la personne aura démontré que Dieu est menteur. Évidemment, Dieu ne veut pas être menteur. Vous me suivez? Quand Dieu dit aux enfants, regardez dans les 10 commandements là, le seul commandement qui va avec une promesse claire, c'est celui des enfants. Parce que Dieu veut qu'ils comprennent bien. On dit, tu ne tueras pas, on s'arrête, tu ne feras pas ci. Mais quand on arrive aux enfants, obéis à ton père et à ta mère. Honore ton père et ta mère pour avoir des jours heureux sur terre. Donc Dieu passe une alliance avec les enfants. Il leur dit, si vous les enfants là, vous obéissez à papa et à maman, je vous promets que vous serez heureux. Quand l'enfant t'obéit, et toi tu le négliges, tu ne le rends pas heureux, demain quand cet enfant là deviendra voyou, Dieu va vouloir le punir, il va dire, ah, Dieu je suis désolé, hein. Tu as dit que si j'honore papa et maman, je vais être heureux. J'honore mes parents, voilà ce qu'ils ont fait de moi. Dieu va baisser la tête. Ou bien, Dieu ne peut pas vous laisser lui faire baisser la tête. Et beaucoup de gens ne réussissent pas dans leur travail. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans leurs affaires. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans leurs projets. Regardez les hommes politiques. Quand vous voyez leur famille, vous avez pitié d'eux. Regardez les hommes d'affaires. Quand vous regardez bien, les enfants les plus heureux aujourd'hui ne sont pas les enfants des gens riches. Parce que quand vous négligez de faire l'essentiel, Dieu va vous ramener à l'essentiel d'une manière ou d'une autre. En essayant de vous fermer des voies. Que si vous êtes au chômage, vous allez être à la maison, non? Ou bien, vous ne pouvez pas négliger vos enfants. Donc, importance capitale, vous devez être partenaire avec l'école, partenaire avec les domestiques, avec qui vous voulez, pour éduquer vos enfants. Maintenant, je parlerai brièvement de l'éducation des enfants même, et puis après je vais m'arrêter, on va évoluer plutôt par vos questions. Éduquer ses enfants, c'est quoi? C'est surveiller leur manière de penser, leur manière de parler, leur manière d'agir, et éventuellement leur manière de ne pas agir. Quand nous faisons la confession, là, qu'est-ce que nous disons? Père, pardonnez-moi, parce que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Quand nous péchons dans la vie, nous avons des problèmes. Si vos enfants vont échouer ou vont réussir, ça se joue dans leur manière de penser, de parler, d'agir ou d'oublier d'agir. Un père et une mère doivent avoir l'obsession, doivent être comme des radars en train de guetter à chaque instant les manières de penser, de parler, d'agir ou de ne pas agir de leurs enfants. En veillant à ce que cette manière de faire là soit conforme à ce qui est bien. Et on dit, enseigne les bonnes voies à tes enfants. Quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Ce n'est pas possible d'éduquer votre enfant jusqu'à 18 ans et il sait qu'on ne vole pas, il n'a jamais volé. est devenu ministre à 40 ans, il vole. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un est voleur en tant que ministre, c'est parce que bébé, sa maman et son papa allons les faire voleurs. Personne ne développe quand il est adulte des vices sur lesquels il a été bien éduqué. Quand vous avez reçu une certaine éducation, il y a des choses que tout le monde fait. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous ne vous sentez pas capable de le faire. Surtout si vos parents sont vivants, quand vous regardez vos parents, il y a des gens, par exemple, je donne un exemple, vous pouvez épouser une femme ou épouser un mari, qui, par exemple, si vous êtes une femme, vous trompe. Il y a des familles dans lesquelles le fils trompe sa femme, la maman du fils le soutient. Dans une famille comme ça, par exemple, la femme serait mieux se divorcer parce qu'elle est foutue. Mais il y a des familles comme la mienne. Si tu trompes ta femme, c'est ma maman même qui va se charger de toi avant qu'elle ne parle. Il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, voilà, il y a peut-être 3 mois, j'ai recruté une assistante à Global. Avant, je prenais tous mes appels moi-même. Mais c'est devenu tellement important que j'ai décidé de le déléguer, sinon je vais devenir fou. Donc, j'ai recruté, on s'est entendu à mon épouse, j'ai recruté quelqu'un pour s'occuper du standard. Et donc, quand on appelle mon téléphone, si j'ai le temps, je prends. Quand je ne prends pas ça, j'en fais automatiquement sur cette personne-là qui répond au client. Et je n'avais pas eu le temps d'en parler à ma mère, naturellement, avec tout ce que j'ai dans la tête. Ma mère a appelé un jour pour me parler. Je n'ai pas vite décoché, c'est tombé sur mon assistante. Elle dit allô, bonjour, pourrais-je avoir un message, tout ça. Ma mère lui dit bon, ok, dis-tu que c'est sa mère. Elle finit de faire ça. Elle n'a pas attendu de me parler. Hein. Elle appelle immédiatement mon épouse, pas l'ancienne et la nouvelle. Elle dit, Hermione, je viens d'appeler ton mari, c'est une femme qui a décroché. Je ne sais pas où il est, mais je te préviens d'aimer. Hein. J'attends de lui parler même pour voir qu'est-ce qui se passe. En même temps, hein, ça, un garçon qui a un moment comme ça, il ne peut pas faire certaines choses. Et il y a des filles comme ça aussi. Donc, vous savez que, plus que vous, même si vous êtes son mari, sa maman s'occupe d'elle et est gardienne d'un minimum de rigueur. Mais il y a des filles, c'est sa maman, elle va dire qu'elle va chez sa maman, et c'est un complice avec sa maman qu'elle va aller te tromper. Quand c'est comme ça, il faut fuir avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça l'éducation. Donc l'éducation, c'est d'abord de définir soi-même. Et c'est là où on ne peut pas le déléguer à quelqu'un, les normes. Qu'est-ce que vous considérez comme normal en termes de manière de parler? Il y a des familles dans lesquelles les enfants disent « Magne à leurs enfants » et ça ne dérange personne. Ça ne dérange pas le papa, ça ne dérange pas la maman. Ça peut déranger un étranger qui est là, mais il va se taire, ce n'est pas son problème. Celui-là, quand demain il va vouloir parler à son patron, il va lui dire « Magne ». Mais si le patron n'a pas une éducation, accepter que un de ses employés dit « Magne », on va le virer. Il y a des endroits, des maisons dans lesquelles on vous voit ses parents. Il y a des maisons dans lesquelles on tutoie son parent. Chaque maison, chaque famille, chaque père et chaque mère doivent définir quelle est la norme. Il y a des maisons où je connais des mères qui disent à leurs enfants, on ne dit jamais la vérité. Bon, ils ne disent pas qu'on ne dit jamais la vérité. Ils disent, il ne faut pas dire la vérité. Toi, tu es un idiot. Comment t'as posé la question? Tu as dit oui. Imbécile, va. J'ai déjà vu une mère dire ça à sa fille. Sa fille a fait une bêtise. On lui a parlé, elle a avoué. Sa maman l'a insulté devant tout le monde pour dire, mais toi, tu es une imbécile. Même si on te tue, c'est des choses qu'on n'avoue jamais. Donc, la norme dans cette famille-là, c'est le mensonge jusqu'à la mort, mais jamais la vérité. Donc, vous devez fixer la norme selon votre religion, selon votre culture, selon votre propre éducation. Parce que l'un des problèmes que nous créons, c'est quoi? Si vous éduquez mal vos enfants, ils sont obligés de mal éduquer leurs enfants, qu'ils veuillent ou non. Parce que dans notre éducation, nous reproduisons ce que l'on a vu nos parents faire. Je crois qu'on dit enfant, il y a une expression comme ça. Une fille ne fera que ce qu'elle a vu sa maman faire. Si une fille voit sa maman partir de la maison et revenir tous les jours à 2h du matin sans que le papa ne puisse parler, il n'y a aucune magie par laquelle, en tant que femme, chez son mari, ne fera pas la même chose. Parce que pour elle, c'est ça qui est normal. Et quand on parle des chocs culturels, dans le mariage, c'est cela. Quelqu'un qui a grandi dans une maison où c'est sa maman qui portait le pantalon, elle est la fille, sa maman a toujours porté le pantalon, elle se marie avec un homme dans la maison duquel c'est le papa qui portait le pantalon, ils ne peuvent jamais s'entendre. Parce que ce que l'homme attend d'une femme, c'est ce qu'il a vu sa maman faire. Et il attend de se comporter comme son père s'est comporté. Tandis que la femme attend de se comporter comme elle, sa maman s'est comportée. Les deux ne peuvent jamais s'entendre, ils vont se disputer tout le temps. En fait, ce n'est la faute d'aucun d'entre eux. Chacun est programmé par ce qu'il a vu faire pour définir ce qui est normal ou anormal. Et ce qui est parfaitement normal pour l'un est extraordinairement anormal pour l'autre. Ils vont se tirer dessus, c'est difficile qu'on trouve l'accord. Parce que les valeurs ne sont même pas les mêmes. Par exemple, ce qu'on trouve normal chez un Haoussa, ce n'est pas ce qu'on trouve normal chez un Yoruba. Ce n'est pas ce qu'on trouve normal chez un Fon. Ce n'est pas ce qu'on trouve normal chez un Adja. C'est pour ça que nos parents parfois disent, mon enfant ne poussera jamais un Yoruba. Mon enfant ne poussera jamais un Fon. Mon enfant ne poussera jamais un Si. On trouve qu'ils exagèrent. C'est vrai. Mais quelque part, quand on sait ce qu'est l'éducation, quand tu as été éduqué, par exemple, en bon fond, féodal d'Abomé, tu ne peux pas épouser certaines personnes qui ont une culture tout à fait différente de ce qu'est la relation entre l'homme et la femme. Je ne sais pas si vous me suivez. En tant que parent, il vous revient, soit de votre religion, soit de votre culture, soit de l'éducation que vous-même vous avez reçue, et mieux de ce que Dieu a dit, si vous êtes de ceux qui s'intéressent un peu à Dieu, de définir quelle est la norme. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais? Vers quoi on doit pousser l'enfant et de quoi on doit le détourner au maximum et le plus rapidement possible? Et à cet effet, le secret de l'éducation comme du leadership est simple. Ça dit quoi? Toute autorité, et vous êtes une autorité en tant que parent, a pour vocation d'encourager le bien et de décourager le mal. On peut résumer là le rôle d'un leader, le rôle d'un chef, le rôle d'un parent. Toute autorité a pour vocation d'encourager le bien et de décourager le mal. Encourager le bien, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire de faire le bien, ça tout le monde sait le faire. C'est faire en sorte qu'il soit tellement intéressant de faire le bien que l'enfant est attiré vers le bien. Et c'est valable avec vos collègues dans la vie en général. Décourager le mal, c'est faire en sorte qu'il soit tellement pénible, tellement coûteux, tellement cher, tellement désagréable de faire le mal que l'enfant va naturellement fuir le mal parce que toute personne est attirée vers ce qui lui est agréable, ce qui le récompense, ce qui est intéressant et fuit ce qui est pénible. Cela veut dire que pour gérer l'éducation des enfants, il faut d'abord identifier les valeurs et si vous n'avez pas vous-même reçu de bonnes valeurs, vous risquez de communiquer de mauvaises valeurs. Et donc, si vous êtes parfois de ceux d'entre nous qui, pour une raison ou une autre, ont reçu de mauvaises valeurs, il faut avoir la présence d'esprit de trouver des gens pour vous aider à définir les bonnes valeurs. Je donne mon propre exemple. Mon père me dit souvent, moi j'ai grandi à Savalou, dans une famille pauvre. C'est vrai qu'on était parmi des gens les plus importants, mais dans une famille pauvre. J'ai épousé votre mère qui vient d'une famille bourgeoise. Il y a certains détails sur lesquels j'ai préféré qu'elle fisse la norme, parce que je préfère que vous vous comportiez comme des bourgeois que comme des pauvres. C'est responsable. Et il y a des choses sur lesquelles c'est ma mère qui avait autorité. Il y a des choses sur lesquelles c'est mon père qui avait autorité. Mais jamais je les ai vus discuter de notre éducation. Voilà notre problème. Un enfant ne peut pas savoir que selon ce qu'il veut, il vaut mieux aller chez papa. Ça, là, papa va accepter. Il ne faut pas en parler à maman. Et selon ce qu'il veut, il veut aller voir maman. Ça, là, c'est maman qui va accepter. Ou l'enfant vient dire à maman, papa a dit si, ainsi de suite. Quand les enfants peuvent jouer entre vous, vous êtes foutus. Vous devez pouvoir vous entendre en tant que parent pour avoir une ligne unique sur les enfants. Si un enfant vous pose un problème, vous devez, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas sûr de connaître l'opinion de votre conjoint sur la question, vous pouvez même prendre du temps, on en reparlera. Est-ce que tu en as parlé à ton papa? Est-ce que tu en as parlé à ta maman? Mais si vous n'êtes pas unanime, même si par exemple votre épouse décide quelque chose sur les enfants, vous n'êtes pas d'accord, vous laissez l'enfant partir. Vous appelez votre épouse pour telle et telle raison. Est-ce que tu ne penses pas que vous vous entendez? S'il faut changer, c'est elle qui a pris la décision qui change. Ce n'est pas vous qui venez changer. Parce que dès que les enfants se rendent compte qu'ils peuvent manipuler les parents pour avoir ce qu'ils veulent, ils vont jouer entre vous tout le temps. Et cela affaiblit l'autorité que vous avez comme parents. Non, il faut avoir ces normes-là. Quand on a ces normes-là, on doit savoir que l'exemple est la meilleure façon d'enseigner. Beaucoup de problèmes viennent dans nos enfants parce que nous donnons le mauvais exemple. Je donne un exemple. Si vos enfants injurient des gens, Madame Bray, si par exemple tu vois un enfant injurier des gens à l'école, écoute les injures qu'elle dit. Je suis prêt à parier que c'est les injures qu'utilise son papa, sa maman ou sa domestique ou son chauffeur. Où est-ce qu'un enfant apprendrait des insultes si ce n'est pas dans la bouche des adultes qui vivent avec elle? Un enfant n'insulte les gens que comme son papa ou sa maman insulte les gens. Et quand il insulte les gens, sa maman le fera pour son papa le fera pour dire nos humains. Mais où il a appris les insultes? Il a appris ça où? Qui lui a appris ça? Vous dites imbécile à longueur de journée, l'enfant dit imbécile, on le gifle. C'est un autre point que j'aborde. Tous les enfants naissent intelligents, très très intelligents, tous les enfants. Vous prenez par exemple les enfants dans l'âge de 2-3 ans, regardez-les, c'est des vrais génies. Les questions qu'ils posent, leur comportement, c'est des vrais génies. Mais à 10 ans, on ne voit plus beaucoup de gens intelligents au Bénin. Pourquoi? Quelque part, on les a abêtis en chemin. Les parents abêtissent les enfants au Bénin. Comment? Je vais vous le dire. L'intelligence, c'est une affaire de logique. L'enfant entend dire, papa dit, on n'insulte pas les gens, il enregistre. S'il voit que papa n'insulte pas les gens, il n'y a pas de problème. Si lui-même, malgré ça, il insulte, que papa dit c'est pas bon, il enregistre ça là, on n'insulte pas. Mais quand il dit, papa dit on n'insulte pas les gens, il enregistre. Papa vient, il insulte les gens. Qu'est-ce qu'il faut retenir? On insulte ou on n'insulte pas? Lui-même, il insulte, papa le gifle. Bon alors, on insulte pas, pourquoi papa le gifle? On finit par dire, bon, c'est les adultes. Ça veut dire quoi, c'est les adultes dans la logique là? C'est-à-dire qu'un enfant essaie de construire des raisonnements logiques. 1 + 1 = 2. Tant qu'on ne lui donne que des choses logiques, son cerveau développe la logique. Mais quand vous lui enseignez des choses logiques, vous faites des choses illogiques, vous le tapez pour des logiques, etc., il ne sait plus que tout est censé être logique. Il n'est plus capable de réfléchir. Il dit, bon, les adultes font ce qu'ils veulent, c'est la dictature. Bon, moi, je fais ce que je veux. Et qu'est-ce qu'il développe? Il développe la sournoiserie. Quand vous êtes là, il fera ce que vous avez dit. Quand vous disparaissez, il fait ce qu'il veut. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants sont des hypocrites qui deviennent des experts du mensonge. Ils savent ce que vous voulez, ils le font quand vous êtes là. Mais quand vous-même vous faites autre chose que ce que vous dites, quand vous n'êtes pas là aussi, ils font autre chose. Puisque vous l'avez appris que dans la vie, on peut dire une chose et en faire une autre. Ce n'est pas leur faute, c'est la vôtre. On ne ment pas. Un étranger vient, vous ne voulez pas le recevoir, va lui dire que je ne suis pas là. L'enfant va comprendre quoi? Tu as dit qu'on ne ment pas. Maintenant, tu lui dis d'aller mentir. Si toi, tu lui commandes du mensonge, comment il va mentir? Demain, tu vas le frapper pour dire quoi? Et au début, quand vous commencez à faire ça, les enfants, en tout cas, moi, ceux que je connais, en tout cas, les miens le font, je suis très content, ils vous reprennent. Moi, je connais ma fille, elle dit, maman, mais tu as dit qu'on ne ment pas, non? Si tu es là que je vais lui dire que tu n'es pas là, c'est que je suis en train de mentir. À ce moment-là où vous êtes honnête, vous dites, ah ma chérie, tu as raison, bon, on ne va pas mentir. Attends, je vais aller le voir. C'est ça, un enfant. un adulte. Mais si vous êtes là, vous dites, ah, bon, souffle la nuit, ça veut dire que je ne suis pas là. L'enfant va dire qu'on n'est pas là. Mais tout ce que vous lui avez enseigné vient de disparaître dans sa tête. Ça veut dire que ça dépend. Ce n'est plus une règle importante. Ce n'est plus une valeur capitale. C'est une valeur, ça dépend de votre humeur. Et les enfants réfléchissent beaucoup. Ils sont très logiques. Si vous voyez un enfant, il voit quelqu'un à la télé, on dit, pourquoi il est à la télé? Papa dit, il est mort. Telle personne, pourquoi il est à la télé, il est mort? Le jour où vous êtes en train de faire un public reportage sur quelque chose, on montre la photo de quelqu'un à la télé, votre enfant vous dit, papa, lui aussi, il est mort. Si vous dites, non, tu es trop bête, vous l'avez compliqué la vie, il faut dire non. En fait, je t'explique. Et vous êtes obligé de trouver une manière de construire une logique dans sa tête. Sinon, l'enfant ne peut pas comprendre. Et parfois, vos enfants sont tellement intelligents qu'ils vont vous prendre en flagrant délit de manipulation. Il faut admettre et s'excuser. Moi, j'ai amené une fois mes enfants au shawarma. Audrey et Chamier avaient peut-être 5 ans à l'époque. On arrive, je voulais sortir pour le prendre, je ne voulais pas qu'elle rentre parce qu'on allait perdre beaucoup de temps. Donc, elles disent, papa, on va rentrer avec toi. Je dis non. Elles disent, pourquoi? Comme il y a un fou et que souvent il fait un peu chaud, je dis mécaniquement, il fait trop chaud. Je n'ai pas fini de parler, elle lève la tête, elle voit comme ici, il a plein de brasseurs dans la salle. Elle dit, mais papa, tu racontes des bêtises, regarde tous les brasseurs qui sont là-bas, tu me dis qu'il fait chaud. Elle avait raison. Elle dit, d'accord, chérie, tu as raison. Ok, descends, on y va. Il faut admettre, quand vous avez tort avec vos enfants, qu'est-ce que ça va leur faire? Quand eux, ils auront tort dans la vie, ils n'auront aucun mal à admettre qu'ils ont tort. Quand ils auront tort avec leur femme ou ils auront tort avec leur mari, ils n'auront aucun mal à dire, chérie, excuse-moi, je me suis trompé, pardonne-moi. Mais s'ils ont vu leur papa et leur maman, quand ils ont tort, passer tout leur temps à se justifier, à crier pour camoufler leur tort, après, comment voulez-vous qu'ils soient hommes dans la vie et qu'ils apprennent à reconnaître leur tort? Vous allez voir des enfants qui se battent tout le temps. Si dès que papa n'est pas d'accord avec maman, il la gifle. L'enfant apprend qu'on n'est pas d'accord, on gifle. Dès qu'un tel camarade n'est pas d'accord avec lui, il le gifle. Mais si un enfant n'a jamais vu quelqu'un porter la main sur un autre, pourquoi il va s'énerver porter la main sur un autre? Il ne sait pas que. Tout ce que les enfants font de bizarre vient du comportement bizarre d'un adulte qu'ils imitent. J'ai un neveu qui va à l'école. Il prend la bouteille d'eau de l'école, il boit au goulot. La maîtresse a dit fatigué d'arrêter, il continue. Un jour, la maîtresse dit, mais pourquoi tu bois au goulot? Il dit, mais parce que mon papa boit tout le temps au goulot. Donc quand tu dis qu'on ne boit pas au goulot, c'est faux. Moi, mon papa boit au goulot. On appelle le papa. On dit, toi, tu bois au goulot? Il dit, non, 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 tu bois au goulot. La petite a dit que tu bois au goulot. Et c'est vrai, il buvait au goulot. Non, vous ne réalisez pas à quel point votre manière de vie et votre manière de vivre, de vous comporter, est la principale influence sur vos enfants. Ce que vous leur dites là, c'est un peu. Mais ce qui détermine surtout le comportement de vos enfants, c'est votre manière de vivre. Moi, par exemple, je ne suis pas capable d'aller quelque part, de prendre un apéritif. Ça m'énerve, ça me paraît bizarre. Je ne suis pas capable d'avoir envie de prendre même un verre de quelque chose d'alcool. Ce n'est pas qu'on me l'a interdit. Hein. Mais je n'ai jamais vu mon père rentrer chez lui et dire, bon, je me prends un petit whisky. Donc, quand les gens font ça, ça me paraît bizarre. Je n'ai jamais vu mon père faire ça. Il y avait des boissons là, mais c'est pour les étrangers qui viennent. Ça ne l'intéresse pas. Je n'ai jamais vu mon père être dans sa maison et puis ouvrir son truc. Bon, je vais me prendre un petit whisky maintenant. Je n'ai jamais vu ça. Donc, ça ne me plaît pas parce que je n'ai pas grandi en considérant que ça, c'est normal. Mais un enfant ne peut pas voir son papa prendre du whisky tous les jours quand il vient et ne pas prendre du whisky quand le papa sortira et buvra du whisky. Quoi qu'on lui dise sur le whisky. Parce que si ce n'est pas bon, papa ne ferait pas. Tous les enfants veulent ressembler à leurs parents, les filles à leur mère, les garçons à leur père. Donc, si vous ne voulez pas que votre enfant fasse quelque chose, vous ne pouvez pas le faire devant lui. Donc, pour éduquer des enfants, il faut commencer à se suivre déjà soi-même, en évitant absolument de faire ce que vous savez mauvais. Et en faisant tout ce que vous savez bien, les enfants vous imiteront. Même si vous ne parlez pas, les enfants feront tout ce que vous faites de bien et auront toujours tendance à faire ce que vous faites de mal. L'autre chose, je le disais, c'est d'encourager. Encourager, c'est de lui rendre intéressant. Quand un enfant sait qu'il va gagner un cadeau, qu'il va gagner une récompense, qu'il va être félicité, qu'on va lui dire bravo quand il travaille bien, il a envie de bien travailler. C'est-à-dire que tout ne se joue pas en termes de frapper ou de ne pas frapper. Vous devez réfléchir à comment faire en sorte que les enfants aient envie de faire ce qu'ils doivent faire. Et de ce point de vue, j'invite aussi souvent les parents à expliquer des choses aux enfants. Les parents moralisent beaucoup les enfants. On ne fait pas, ce n'est pas bon, c'est interdit. Mais les parents ne prennent pas la peine d'expliquer aux enfants qu'est-ce qu'ils gagnent à bien se comporter et qu'est-ce qu'ils perdent à mal se comporter. Les parents ne partagent pas souvent avec leurs enfants les informations qu'ils ont. Moi, je prends mon propre mariage. Mes parents m'avaient dit, ne te marie pas avec cette femme. Je me suis entêté. À la fin, ils m'ont dit, on t'avait dit, nous, on savait tel, tel, tel. Je dis, je suis désolé, c'est votre faute. Vous m'avez dit ne pas me marier, mais vous ne m'avez jamais dit ce que vous saviez. Vous auriez dû me dire, ne te marie pas avec elle parce que nous savons telle chose, telle chose, telle chose qui nous font craindre telle chose. Et je ne suis pas fou, je ne pouvais pas entendre ça et m'entêter. Mais quand vous dites ne te marie pas, ne te marie pas, c'est tout, je ne peux pas vous suivre. Parce que là, vous me moralisez, vous faites de la dictature. Vous ne m'expliquez pas pourquoi ce n'est pas bon. N'oubliez pas que vos enfants ne sont pas idiots. Quand moi je prends mes filles, l'aînée a aujourd'hui 7 ans, belle, avec des rondeurs, tout ça, avec tout ce que je fais aujourd'hui, il faut commencer à parler aux enfants. Elle va voir la télé, ah, c'est mon amoureux, ainsi de suite. Les enfants, à 5 ans, vous parlent d'amoureux. Écrivent des trucs, ah, tel est mon amoureux, ça ne veut pas ce que ça veut dire amoureux. Vous prenez nos enfants aujourd'hui, ils ne savent même pas ce qu'est l'amour. Les adultes aussi ne savent pas ce qu'est l'amour. On confond sexe, amour, passion, tout. Donc les enfants grandissent en prenant l'amour pour un jeu de plaisir. Et ils n'ont que ce modèle. Un enfant aujourd'hui ne sait plus ce que veut dire aimer quelqu'un, l'attendre à distance, des sentiments, vouloir faire. Il ne sait plus, il ne voit personne faire ça. Ce n'est pas à la télé, ce n'est pas dans leur famille, ce n'est nulle part. Donc nos enfants grandissent en ne sachant même pas ce qu'est le mot amour, alors qu'ils l'emploient matin, midi, soir. Mais elles sont exposées à des catastrophes. Vous êtes obligé d'asseoir vos enfants, même tout petits, de leur parler. Mais attention, si tu te laisses aller au garçon, moi je suis un garçon, ma chérie, viens, on va en parler. Tu vas voir. Quand un ami va te dire tel là, fais telle chose, tu vas voir qu'il va fuir. Si tu le suis rapidement, il va se moquer de toi parce que le garçon aime les défis. Une fille qui vient trop facilement à un garçon qui l'appelle, le garçon n'est pas intéressé, elle est trop facile. Les garçons aiment les choses difficiles. Vous êtes obligé de parler à vos enfants, de leur expliquer pourquoi elles doivent se réserver pour le jour de mariage, de leur expliquer qu'est-ce qu'elles gagnent. Et dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles perdent. De leur donner des exemples de personnes qui ont fait la mauvaise vie et qui ont échoué. Mais c'est tout. Non, ne fais pas ça dans la maison, je vais te gifler, je vais te frapper. Ça ne règle pas les problèmes. Il faut les encourager à bien faire et les décourager de mal faire. Parfois par la sanction qui doit arriver, mais beaucoup par l'information, par l'éducation, par l'explication. C'est un défi très compliqué, mais c'est le défi de toute une vie. Vous n'avez rien d'autre à faire. On ne vit que pour rendre des enfants heureux et faire en sorte que nos enfants soient plus grands que nous. Et dans ce jeu-là, on doit faire attention à quelques petites choses. Si vous vous moquez de vos enfants, ils croiront qu'ils sont mauvais, qu'ils croiront qu'ils ne sont pas bons. S'ils croient qu'ils ne sont pas bons, ils seront toujours complexés. Je vais vous donner un exemple. Si je suis riche et vous dites que je suis pauvre, ça ne peut pas m'énerver. On est d'accord? Si vous m'insultez de pauvre et que ça m'énerve, c'est parce que dans ma propre tête, je ne sais pas trop bien si je suis riche ou pauvre. Je ne veux pas être riche, je vais dire, ouais, moi le pauvre, là, ça va m'énerver. Ou bien, si je sais que je suis intelligent, vous allez dire, regardez, M. Guilbinet est tellement bête. Vous croyez qu'il peut m'insulter, par exemple, de bête et je vais me fâcher. Je suis tellement convaincu qu'il ment qu'on ne peut pas m'insulter de bête et que je me fâche. Mais si on te dit que tu es bête, tu te fâches. Ça veut dire que toi-même, tu doutes de ta bêtise. On est d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe quand les enseignants, quand les parents, tu es bête, tu es stupide, tu es un idiote. Quand vous balancez des insanités comme ça à vos enfants, surtout venant de leur père, de leur mère, qu'ils respectent et qu'ils présument n'avoir aucune raison de leur mentir, les enfants croient sincèrement que vous avez raison. Et quand vos enfants croient que vous avez raison de les trouver stupides, quand dehors on les traitera comme des gens stupides, ils n'auront aucun mal à y croire. C'est vous qui abêtissez vos enfants en leur disant, en déclarant ou en prophétisant, si je veux être un peu plus spirituel sur leur vie, la bêtise. Et je vais vous donner un exemple de comment un enfant devient bête quand on lui dit qu'il est bête. Dans la vie, tout le monde rencontre des obstacles. Tout dépend de notre comportement quand nous avons des obstacles. Personne ne veut faire quelque chose et puis c'est direct sans problème. Tout le monde a des difficultés. Quand vous arrivez sur quelque chose et que vous avez des difficultés, si on vous a déjà dit d'avance, cette chose-là, tu n'y arriveras jamais, c'est impossible. À la première difficulté, vous dites, bon, voilà ce que les gens disaient, il vaut mieux laisser tomber, ce n'est pas à peine de me fatiguer. Mais quand on t'a toujours dit, et que tu es convaincu que tu es intelligent, qu'aucun problème ne peut te dépasser, face à la même difficulté, tu dis, mais non, quand même, je suis intelligent. Cherche encore un peu, mon petit, tu vas trouver. Il force un peu, il trouve, il avance. Donc, la manière dont vous traitez vos enfants, les insultes que vous leur donnez, ou les encouragements que vous leur donnez, les compliments que vous leur faites, les programmes pour forcer et réussir, ou se décourager et laisser tomber. Trop de parents passent leur journée à insulter leurs enfants. Conclusion, les enfants se comportent comme vous dites qu'ils sont. On n'a pas, c'est un crime, on devrait punir les gens, d'oser dire à un enfant qu'il est bête. Même si un enfant vole, il n'est pas un voleur, il a volé. Il y a une différence entre dire tu es voleur et tu as volé. Ne décrétez pas des mauvaises choses sur la vie de vos enfants. La parole là, c'est dangereux. Hein? Ce que vous dites de bien sur vos enfants s'accomplira. Ce que vous dites de mal sur eux s'accomplira aussi. Attention à ce que votre bouche, surtout quand vous êtes en colère, dit sur vos enfants. Ah, Vicaire Lamblonoué, on devrait enfermer les gens pour dire des bêtises comme ça. C'est criminel de décréter sur la vie d'un enfant que le mal qui vous a fait un enfant lui fera. Parce que ça arrive toujours. Un parent a une autorité absolue sur la vie de son enfant en termes de volonté. Il y a ce qu'on appelle la malédiction des parents. Tu peux faire tout dans la vie. Si tes parents t'en veulent, même s'ils ne font rien, leur cœur qui est contre toi suffit à te bloquer. Tu n'iras nulle part. C'est pour ça que quand vous arrivez à un certain niveau de problème, on dit, va te réconcilier avec tes parents. Va faire un cadeau à tes parents. Pour faire au même. Si ta mère t'en veut, tu ne vas nulle part dans la vie. Ce n'est pas la peine de te fatiguer. Et si ta mère sorcière s'attaque à toi, personne ne peut te délivrer. Parce que ta mère, elle a l'autorité sur ta vie. Donc attention à ce que vous dites de vos enfants. Si vous dites qu'ils sont bêtes, ils deviendront bêtes. Vous dites qu'ils sont voleurs. Écoute, on dit que je suis voleur. Je n'ai plus besoin de faire des efforts pour ne pas voler. On a déjà dit que je suis voleur. Cabrim, on n'a plus besoin de couteau. Évitez de décréter des choses comme ça sur les enfants. Première chose. Deuxième chose, quand les enfants posent des questions, et ils en posent toujours beaucoup, répondez-leur. Si vous avez l'explication, donnez-la leur. Si vous n'avez pas l'explication, aidez-les à les chercher. Dans le dictionnaire, chez un enseignant, à la télé, à la bibliothèque. Parce que quand les enfants sont curieux, on ne grandit qu'en apprenant. Pour apprendre, il faut vouloir comprendre. Quand les parents raboulent les enfants qui n'ont pas compris, parce qu'eux-mêmes n'ont pas compris pour leur expliquer, Il casse le ressort de la créativité, de la curiosité dans les enfants. Quand vous n'avez pas la réponse, ah, ça tombe bien, ma chérie, c'est une très bonne question, allons chercher. Papa ne sait pas ça, mais c'est intéressant, on va découvrir ensemble. C'est passionnant, l'enfant doit prendre goût, doit prendre plaisir à chercher, à découvrir, à comprendre. C'est passionnant pour lui. L'autre chose, il y a des choses que les mamans disent qui sont très mauvaises. Les papas un peu moins, les mamans disent. Qu'un clémando, gbeo. Nous sommes dans un monde de réseau. Quelqu'un qui n'a pas d'amis, qui ne sait pas se mettre en groupe, est condamné à la mort. Jésus lui-même, après, a dit, mais Dieu dit, aime ton prochain. Et on dit, enfant, gbeto, ouais, non. On ne peut pas décréter toute la vie d'un enfant. Quand les enfants veulent aller à l'école, la première chose que les mamans leur disent, qu'un clémando, gbeo. Non. Il ne faut pas dire aux enfants de ne pas avoir des amis. Il faut leur apprendre à gérer leurs amis pour ne pas être dépendant de leurs amis. Moi qui suis ici, je connais des millions de personnes. Et les gens qui me connaissent, c'est encore plus. Mais je n'ai pas d'amis intimes. Il n'y a pas celui-là qui va venir dans ma maison et dire que lui, il est l'ami de Edgar. Quand les gens appellent mon épouse, appellent mes parents, ils disent, c'est faux, Edgar n'a pas d'amis, tu ne peux pas être l'ami d'Edgar. Ça veut dire que je connais tout le monde, mais je ne dépends de personne. Je n'ai pas besoin de voir quelqu'un pour être heureux. Je n'ai pas besoin quand je me réveille le matin, midi, soir, tous les jours, d'être chez quelqu'un pour que mon bonheur soit fait. Mais je suis bien avec tout le monde. Je sais fonctionner avec tout le monde. Apprenez à vos enfants à se tenir là où il y a des gens importants. Apprenez à vos enfants à avoir des amis de personnes importantes. On dit, ah, à quoi nous voulons, Manoé Goudo, Ramon Viroy. En fréquentant les pauvres, on devient encore plus pauvre. Si vous êtes pauvre, invitez votre enfant à fréquenter des riches pour devenir riche. Pour apprendre ce que les riches savent de plus que vous pour être riche et que vous n'avez pas. Si vous encouragez votre enfant à ne vivre qu'avec les pauvres, vous voulez qu'il soit aussi pauvre que vous, mais vous voulez qu'il devienne plus riche que vous. Mais il ne faut pas qu'il soit l'esclave des riches. Il ne faut pas qu'il se prostitue aux riches. Il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi aux riches. Vous devez donc l'encadrer dans sa relation avec les riches au lieu de lui demander de fuir les riches. Vous devez le pousser à être curieux, mais tout en étant poli et ne pas lui interdire la politesse. Il pose une question, c'est avec vous, un carobio, moi. Non, un carobio. Moi, ma force vient de ce que je pose des questions sur tout et rien. Mais dans la politesse. Et dans la vie, la curiosité vous sauve. Moi, j'ai gagné des millions par la curiosité. Je vous donne un petit exemple. J'étais un joueur Ouaga dans le taxi. Et comme je fais souvent, je discutais pendant le trajet avec le taximan, d'où il vient, je crois qu'il était nigérien, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, tout ça. C'est à Ouaga, hein, au Burkina. Mais j'ai découvert qu'il était passé, entre autres, dans sa vie, à Cotonou, à Tokpa, où il avait vendu des pièces détachées de voiture. Donc, j'ai enregistré son numéro de téléphone et son nom. On ne le sait jamais. Et je suis descendu de mon taxi, je l'ai payé, je suis parti. Plusieurs mois après, j'étais ici. Je voulais acheter un moteur pour un de mes bus. J'ai envoyé quelqu'un à Tokpa, je crois qu'on a dû me dire 1,5 million ou 2 millions le moteur. Et je cherchais comment faire, je n'ai pas trouvé. Quand je me suis rappelé, mais je connais quelqu'un qui a vendu des pièces à Tokpa, il doit avoir des relations là-bas. Je l'ai appelé de Cotonou à Ouaga. Il m'a recommandé à quelqu'un, je n'ai même pas acheté le moteur à 500 000. J'ai gagné 1 million parce que j'ai été assez curieux pour poser la question à un chauffeur de taxi, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Quand je pose des questions, on me dit, mais pourquoi tu poses des questions? Je ne pose pas des questions. Je dis, moi, je ne fais que poser des questions. Mon métier, c'est de poser des questions pour comprendre. Et si j'en sais plus que beaucoup de gens, c'est parce que moi, je demande tout ce que je ne comprends pas. Si quelqu'un ne demande pas, tant pis pour la personne. On dit, par exemple, quelqu'un est mort. Je dis, mais il est mort de quoi? Il dit, il est mort. Mais si je ne sais pas de quoi il est mort, moi, je veux me dire la chose. Je veux savoir de quoi il est mort. Comment il est mort? Pourquoi il est mort dans le On dit, le film pour moi, il y a beaucoup. Était ouais. Je veux savoir. Parce que ça peut m'arriver demain. Je peux être là demain, quelqu'un va avoir le même cas. Je dis, ah, quelqu'un est mort comme ça, il ne faut pas faire ça. Il faut chercher à comprendre dans la vie. Dieu a dit, vous périssez faute de connaissances. Et enfant, pour dire à quelqu'un de se développer, de prospérer, on dit, Runukun, ouvre les yeux. Ce n'est pas ouvrir les yeux pour ne rien voir, c'est ouvrir les yeux pour voir. Jésus dit, vous avez les yeux pour voir, vous ne voyez rien. Parce qu'on ne veut pas être curieux. Et donc, c'est les parents qui tuent la curiosité dans l'enfant. Comment les grandes découvertes scientifiques se font? On se dit, mais pourquoi si? Pourquoi pas ça? Pourquoi ça marche comme ça? Et si on faisait ça? On se pose des questions, et à force de se poser des questions, on découvre quelque chose de nouveau. Quand on dit aux enfants, on leur dit, quand l'enfant devient un idiot, programmé pour ne jamais réfléchir. Et après, on dit, mais mon enfant là, tout le monde réussit, lui il est à la maison, il n'a pas trouvé d'emploi, c'est toi qui l'as programmé pour être chômeur. Oui, inconsciemment ou bien, qui a dit à l'Assemblée, consciemment ou inconsciemment, tu l'as programmé pour être chômeur. Autre chose, les gens me disent, mais monsieur Guilibi, comment tu fais? Il y a des millions de personnes là, tu parles devant eux, tu n'es pas dérangé, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, dans ma maison, quand des étrangers arrivaient, mon papa et ma maman ne m'envoyaient pas dans la chambre. Vous dites, quitte le salon, il y a des étrangers. On m'a appris à me tenir en présence des étrangers. Et à bien me comporter en leur présence. Si chaque fois que 10 personnes arrivent dans votre maison, vous demandez à vos enfants de fuir, pourquoi voulez-vous que je lui sois capable de parler devant 100 personnes? Ils ont passé toute leur vie à associer le monde avec disparition. C'est pas comme ça dans la plupart des maisons. Dès que les adultes arrivent, on demande aux enfants de s'éclipser. Vos enfants grandissent en apprenant à s'éclipser quand le monde arrive. Moi, j'étais enfant, mon papa était à l'auterie, j'allais dans un studio de télémillion, le studio de l'autosportif, j'allais au lancement. J'ai grandi dans la foule. J'ai passé ma vie dans les studios de télé, de radio. J'ai passé du montant à voir des gens importants arriver chez moi et à me tenir devant eux. Mon petit garçon qui a 18 mois, si vous êtes ici, il se comporte, vous allez croire, c'est un adulte. Il vient vous saluer poliment et puis c'est loin, il vous regarde. Tu veux faire certaines choses, gentiment, il va te dire non. En même temps, il me fait un signe. Il faut apprendre aux enfants à se comporter en public comme des grandes personnes. Mais au lieu de leur apprendre à se tenir comme des grands, on leur dit, fuis les grands. Bon, évidemment, il va fuir les grands toute sa vie. Demain, vous mettez trois personnes, il baisse la tête. Il a toujours baissé la tête quand les gens venaient à la maison. Comment il va parler devant des gens si dans sa propre maison, il ne pouvait pas parler devant deux personnes? Et puis vous humiliez parfois les enfants. On les tape de manière sauvage devant tout le monde. On les ridicule, on les humilie. Conclusion, ils sont brisés dans leur orgueil. Ils passent leur vie à se cacher, à se faire petit, à se faire oublier. Or, nous sommes dans une vie où ils peuvent s'imposer pour gagner. Vous devez faire attention à ce que dans l'éducation que vous donnez à vos enfants, vous ne brisiez pas en eux tous les ressorts sans lesquels ils ne peuvent jamais être de grands hommes. C'est cela un peu le défi d'éducation. Ce n'est pas facile, mais documentez-vous. Il y a des livres, on en a d'ailleurs ici. Si ça intéresse quelqu'un, c'est gratuit. Nous avons ici la bibliothèque. Il y a plus de 2000 livres là, sur différents sujets. Ça peut intéresser certains. Les mercredis, jeudi, je fais des formations ici gratuitement, sur différents sujets de ce genre-là, de 19h à 21h. Il y a Internet. Posez des questions à des psychologues, aux enseignants, aux directeurs de votre école. Mais vous devez être passionné. Il y a des petites choses où vous voyez un enfant faire. À un moment, il dit non à tout, il dit oui à tout. Les enfants, ça doit devenir, votre enfant doit être un sujet qui vous passionne. Pourquoi il fait ça? Mais pourquoi il réagit comme ça? Comment on va faire, ainsi de suite? Votre enfant doit être un produit sur lequel vous travaillez avec passion, sachant qu'il est dans vos mains, comme de l'argile. Il deviendra ce que vous en ferez. Et si vous n'en faites rien, la rue en fera quelque chose dans tous les cas. La nature horreur du vide. Mais vous avez l'opportunité de faire de vos enfants de grands hommes. Même si vous n'avez rien été dans votre vie, vos enfants peuvent tout être. Ça dépend de vous. Vous devez aussi rêver sur vos enfants, je terminerai par ça. Vous devez avoir de grandes ambitions pour vos enfants. Et vous devez prier pour vos enfants. De temps en temps, soit en leur imposant les mains, soit simplement prier pour vos enfants. Demandez à Dieu de s'occuper d'eux. Demandez à Dieu de leur donner une bonne conduite. Demandez à Dieu de leur donner de la patience. Il y a des choses que vous ne pouvez pas. Demandez à Dieu, demandez au Saint-Esprit de le faire dans leur vie. La prière d'une mère est redoutable pour la vie d'un enfant. La prière d'un père aussi, mais un peu moins. Mais priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants, aimez vos enfants. Éduquez-les dans la discipline, mais sans les irriter. Ça ne tient qu'à vous d'en faire de grands hommes, d'en faire de grandes femmes. Et si vos enfants sont grands, vous ne pouvez plus jamais devenir petits. Mais si vos enfants sont des bandits, qui que vous soyez rapidement, vous ne serez plus rien. Parce que si vous êtes vivant et qu'on enferme vos enfants parce qu'on les a surpris en train de voler à ton corps, vous voyez que vous n'êtes déjà plus rien. Donc vous n'avez pas le choix que de prendre le temps d'éduquer vos enfants, quitte à demander conseil pour le faire. Je vais m'en arrêter là et le reste du temps, je vais plutôt évoluer par réponse à vos questions parce que je suis sûr qu'il y en a. Je vous remercie. Le micro, pour qu'on puisse commencer à prendre des questions. Alors, on y va. Des contributions, des questions. Allez-y sans protocole. Il y a une question.
Bonsoir, chers invités. Bonsoir, monsieur le conférencier, monsieur Edgar Guidibi. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'exaltation qu'on a suivi l'exposé. J'ai eu quelques regrets parce que je me suis dit, est-ce que je pourrais rendre fidèlement ce que j'ai entendu ici à mon épouse à la maison? Peut-être pas assez comme le maître, mais j'essaierai quand même.
Nous avons tout également enregistré, on va vous donner des copies. Vous allez voir avec Mme Braille pour récupérer des copies.
Ah d'accord, là ce sera bien. Je remercie la directrice aussi qui a initié cette rencontre-là, parce que ce n'était pas évident ce soir. Moi, je ne m'attendais pas à entendre tout ça là. C'est vraiment édifiant. Et si nous pouvons trouver le temps de le faire, je pense qu'on va gagner. Mon souci, c'est un point de développement qui m'intéresse, c'est comment est-ce que nous pouvons programmer nos enfants? J'ai suivi la chose, bon, ça s'est dit un peu, mais si on peut revenir encore là-dessus, comment programmer réellement les enfants à devenir ce que nous avons envie qu'ils soient? C'est ce sur quoi je voudrais quand même, si vous avez un peu le temps de revenir, afin qu'on puisse bien s'entendre. Je vous remercie.
D'accord, je réponds aux questions au fur et à mesure, je les prends toutes. Qu'est-ce que vous préférez? Ok, alors, comment programmer nos enfants? C'est comme toute chose, hein, c'est comme en informatique. Avant de programmer quelque chose, il faut savoir quel est le résultat final qu'on veut. Vous devez pouvoir à un moment dire, mais comment je vois mon enfant dans 20 ans? Comment je vois mon enfant dans 30 ans? Quel genre d'homme ou quel genre de femme je veux que mon enfant soit? Et de ce point de vue, vous devez vous intéresser aux différentes dimensions d'une vie. Une vie, c'est d'abord du spirituel. Une vie, c'est du social. Une vie, c'est du matériel. Une vie, c'est du professionnel. Une vie, c'est peut-être une personnalité. Une vie, c'est un couple, c'est une famille. Il y a différentes choses dans la vie. Dans chacun de ces domaines, on peut les décomposer comme on veut. Vous devez avoir un idéal, un objectif final pour vos enfants. Je précise ici, il est dans la vocation des parents de rêver pour leurs enfants. Mais il n'est pas dans la vocation des parents d'obliger les enfants à vivre tous leurs rêves. Il faut bien qu'on se fasse une nuance. C'est sain, c'est souhaitable que vos parents rêvent pour vous et vous poussent dans une certaine direction. En général, quand le rêve que les parents font pour leurs enfants est bon, il s'accomplit sans qu'on ait besoin de forcer les enfants. Mais il y a certains cas où le rêve des parents soit n'est pas bon, soit n'est tout simplement pas le plan de Dieu pour les enfants. Ce n'est pas parce que vous voulez être docteur, vous n'avez pas pu être docteur, que vous allez obliger votre enfant à être docteur. Si le plan de Dieu est qu'il soit docteur, il sera docteur. Mais le plan de Dieu peut être que lui soit par exemple avocat. Donc, il faut à un moment pousser les enfants, d'accord, les éduquer, créer les conditions pour leur faire donner une bonne vie, mais avoir l'humilité de ne pas vouloir les obliger. Quand on sent manifestement que ce n'est pas leur talent, ce n'est pas leur destinée, à faire absolument ce qu'on veut. Ensuite, quand vous avez déterminé le comportement, le résultat final que vous attendez de votre enfant, vous devez vous demander comment on obtient ce résultat. J'ai donné des exemples. Supposons que vous voulez que votre enfant soit quelqu'un qui prend des risques. Moi, par exemple, j'ai été programmé pour prendre des risques. Parce que dans la vie, qui ne risque rien n'a rien. Et moi, l'un de mes grands points forts, c'est le risque. C'est difficile de prendre plus de risques que moi. Parce que moi, j'ai été éduqué pour savoir que, comme on dit, on risque de perdre, on risque de gagner. Quand vous avez tellement peur de perdre, que vous supprimez le risque de perdre, peut-être que j'ai lu ça un peu, on a là risque de perdre et on a risque de gagner. Beaucoup de gens ont tellement peur qu'ils détruisent le risque de perdre. Mais quand vous avez détruit le risque de perdre, avec quoi voulez-vous conjuguer gagner? Celui qui s'assure de ne pas pouvoir perdre vient de se garantir qu'il ne gagnera jamais. Plus vous risquez, on dit, c'est même une loi de la finance, le risque est inversement proportionnel au rendement. Ça veut dire quoi? Plus il y a de risques, plus il y a à gagner. Après, il faut faire preuve de sagesse dans le choix de faire risque et avoir la grâce de Dieu et l'intelligence pour bien gérer ce que vous faites. Mais celui qui est programmé pour fuir tout ce qui est difficile, tout ce qui est compliqué, est programmé pour échouer. C'est quoi un fonctionnaire? Par opposition à un opérateur économique. Le fonctionnaire est celui qui dit, je préfère gagner un petit salaire toute ma vie, si j'ai un peu d'occasion de voler, tant mieux, sinon c'est pas grave, que de prendre le risque d'être un opérateur économique qui aujourd'hui peut être pauvre, qui aujourd'hui peut n'avoir rien, mais qui demain sera milliardaire. Qui des jours va gagner 100 millions, des jours ne gagnera rien. Cette vie-là, où on monte, on descend, et puis on ne sait pas de quoi demain faire, moi je ne veux pas. Laissez-moi être fonctionnaire jusqu'à vie, ma retraite est garantie, ma pension est garantie, même si c'est 50 000, c'est mieux pour moi. C'est ça le fonctionnaire. Dans tous les pays du monde, le fonctionnaire est celui qui a un potentiel, mais qui préfère s'assurer la sécurité dans la durée que de risquer d'acquérir tout ce qu'il peut avoir. Parce que pour acquérir gros, il faut risquer gros. On dit la vie est pleine de personnes qui ont sacrifié leur potentiel pour de la sécurité. À tous les carrefours, la vie, vous avez le choix. On choisit de ne pas avoir de soucis ou choisit de foncer. Si vous avez peur qu'on vous casse les pieds, vous ne pouvez pas marquer de but dans un terrain de football. Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous blesse, vous ne pouvez pas monter. Si vous montez sur le terrain en disant, j'ai un match demain, il faut que je protège mes pieds, vous ne pouvez pas marquer de but. Il y a des gens qui passent leur vie à protéger leurs pieds. Quand tu protèges ton pied, ce n'est pas la peine de jouer. Donc, beaucoup de parents programment leurs enfants pour ne pas risquer. Dès qu'un enfant fait quelque chose, non, touche pas ça. Écoutez, même avec ma propre épouse, je me parle tout mon temps à parler de ça. Un enfant prend quelque chose, il commence à le tourner, il veut l'ouvrir. Elle dit, non, dépose. Je dis, mais laisse-le ouvrir. Pourquoi je vais le laisser ouvrir? Il va casser ça. Je dis, mais c'est en ouvrant qu'il va comprendre. Parce que quand un enfant prend quelque chose, il regarde. Ça lui paraît bizarre. Pourquoi ça brille? Pourquoi c'est rouge? Pourquoi c'est dur? Il veut casser. Pourquoi il veut casser? Pourquoi les enfants cassent les jouets? C'est pas parce qu'ils sont méchants. Il veut voir comment ça marche. Pourquoi ça tourne? Pourquoi ça marche tout seul? Pourquoi ça fait du bruit? Même s'il ne faut pas le laisser casser, il faut féliciter ce réflexe de comprendre. Beaucoup de parents détruisent le réflexe de comprendre. On ne touche pas, on ne fait pas. L'enfant ne peut rien faire dans la maison. L'enfant est comme ça. Il devient un idiot. Il devient un idiot, il dit pourquoi mon enfant est au chômage? Un idiot est toujours au chômage. Alors que moi, j'ai été programmé, casse si tu veux, ouvre si tu veux, essaie si tu veux. Viens me dire qu'est-ce que tu as vu dedans. Et on m'explique. Plus vite un enfant a l'occasion d'essayer, plus vite il comprend, plus vite il est intelligent. Moins un enfant peut toucher de choses, moins vite il comprendra. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école. Il n'y a pas d'année où moi je n'ai pas fait du management. Moi j'ai peut-être, j'ai aujourd'hui 34 ans, j'ai peut-être 17 ans, 16 ans d'expérience en management. Comment ça se fait? Mais déjà moi au CM2, je faisais déjà du management. Je dirigeais toujours quelque chose à l'école, une association, l'orchestre, l'équipe. Je dirigeais toujours quelque chose. Mon père a une grosse bibliothèque. Moi, mes livres là, c'est même pas le 20e des livres de mon père. Je rentrais dedans quand, par exemple, j'avais une réunion dans mon association et les gens se battaient. Je vais à la maison, je regarde l'habitude de mon livre, un livre sur la négociation, un livre sur la gestion des conflits. Moi, je lisais ça, j'avais pas 10 ans. Et mon père a des livres souvent très terre à terre. Je lis ça, je viens appliquer à l'école. Quand nous avons fait des grandes choses parfois, ils nous félicitaient. On a fait des grandes choses un jour, on s'est endetté, on était en peine en 3e avec des amis. On a voulu lancer un journal. Les gens nous ont exploités, on a sorti du n'importe quoi. On avait pris de l'argent des sponsors, 1,5 million. Les parents de tous les autres les ont frappés. Moi, mes parents m'ont assis. Ils m'ont dit, bon, quelle leçon tu en tires? Ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, qu'est-ce qui s'est passé? Si telle leçon, c'est comme ça marche. Bon, pas de problème, voilà un chèque, va payer. Et la prochaine fois, on recommence. Mais tiens compte de ces leçons. Quand un enfant sait qu'il y a dans la vie quelqu'un qui protège son risque, moi, j'ai appris à la vitesse de la lumière, là où les gens disent, ah, si c'est comme ça, moi, je ne vais plus jamais rien essayer. Faites affaire, on l'essaie, puis les parents vous frappent là, je ne suis plus dedans. Ils ne sont pas au quart du niveau où moi, je suis aujourd'hui, à la seule différence que moi, on m'a dit, continue, c'est devant, continue. Dans tous les cas, tu as des problèmes, c'est pas grave, continue, on t'aide. Parfois, les parents ont les moyens de continuer, mais par principe, on sanctionne. Celui qui n'a pas le droit à l'échec ne peut jamais grandir. Parce que s'il n'essaie pas, un enfant peut-il commencer à marcher sans tomber? Si dès que votre enfant commence à marcher, quand il tombe, on le frappe, il ne va jamais marcher, il peut faire rester par terre pour le père frapper. Ou bien, mais c'est ce que vous faites souvent. Un enfant essaie quelque chose, il faut être tolérant. Il faut le rassurer. Il faut le féliciter. Bravo ma chérie, ça va aller. Continue un peu, ça va venir. On est là avec toi, c'est pas grave. Tout ne se fait pas facile dans la vie, mais tu y arriveras. Ça, c'est par exemple pour développer la prise de risque. Si vous voulez développer l'honnêteté chez vos enfants, il faut leur apprendre à ne pas prendre le bien d'autrui. Être rigoureux sur ça. Leur apprendre à ne pas prendre le bien de leurs frères n'importe comment. Leur apprendre à gérer leurs biens. Leur donner de l'argent pour voir comment ils vont gérer. C'est-à-dire, vous devez repérer dans la vie, et c'est le travail de toute une vie, les choses qui sont importantes. Et comment vous voulez que vos enfants se comportent sur ces choses. Et chaque fois que l'occasion se présente, veillez à ce que le message que vous passez à vos enfants, le comportement que vous avez, l'attitude que vous avez, votre réaction soit de nature à favoriser ça et pas à décourager ça. Si par exemple on dit, ah, mon enfant est au chômage, et il m'a tourné, je ne connais personne, je n'ai pas de relation. Vous avez passé toute votre vie à dire à vos enfants, Mando Bueo, reste à la maison, Wamonondo, à quoi nos vies à Sigbea. Vous passez toute votre vie à dire ça. Après, le chômage vous dit, je n'ai pas de relation. Non, si vous voulez qu'il soit quelqu'un d'important, vous devez lui apprendre à avoir des relations. Apprendre à avoir des relations, c'est quoi? Il faut lui apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous n'êtes pas capable de tout lui apprendre, moi, par exemple, j'ai des gens qui m'envoient des enfants. Bon, je t'envoie mon petit, parle-lui un peu. Je t'envoie mon petit, aide-lui un peu. Envoyez les gens ou envoyez vos enfants, selon le moment où ils sont dans leur vie, vers des personnes qui peuvent leur parler. Si votre fille commence par exemple à vouloir courir derrière tous les garçons, vous avez peut-être une soeur ou une cousine qui s'est brûlée à courir derrière les garçons, elle a bougé sa vie. Envoyez-lui votre fille, dit, ma soeur, toi tu as payé le prix pour savoir ça. Pardon, parle à la petite. Sois gentil, raconte-lui ton histoire. Qu'elle comprenne de quoi j'ai peur pour elle. Il y a des chances que quand elle va parler à votre soeur qui a subi ça, elle reviendra beaucoup plus édifiée que ce que vous pouvez lui dire en tant que père. Donc vous devez tout le temps d'entendre vous demander comment je peux faire comprendre ça à cet enfant-là. Comment je peux encourager l'enfant à faire ça. Comment je peux le pousser vers ça. En se rappelant que tout système multiplie ce qu'il récompense et détruit ce qu'il punit. C'est l'une des règles principales de l'éducation. Tout système multiplie ce qu'il récompense et détruit ce qu'il punit. Si on rentre dans une maison et que tous les enfants sont des impolis, c'est parce que le papa ou la maman ont encouragé l'impolitesse et ont récompensé l'impolitesse. Il ne peut pas avoir des enfants impolis dans une maison où le papa et la maman n'ont pas encouragé l'impolitesse. Si on vient dans votre maison que les enfants sont impolis, c'est votre faute, ce n'est la faute de personne d'autre. Comment fabrique-t-on des impolis? Je vais vous donner l'exemple. Vous prenez une décision. Par exemple, vous dites, bon, je ne sais pas, il faut se coucher à 21h. Vous avez trois enfants. Deux d'entre eux, c'est exécutifs, vont dans la chambre se coucher. Peut-être votre fille ou votre fils, celui que vous préférez, reste au salon, il fait la tête, il claque les portes, il n'est pas content, il boude. Au lieu d'être femme, il dit, tu me fous le camp immédiatement. Vous l'appelez, ma chérie, viens, qu'est-ce qui se passe? Mais non, comprends-moi, c'est ça. Bon, ok, je te laisse regarder la télé 30 minutes. Les autres regardent. Ah, donc quand on résiste, ça marche. Le lendemain, vous prenez encore la même décision, ils s'en vont encore. La même personne boude encore. Vous cédez encore. Vous ne vous en rendez pas compte, c'est des jours différents. Les enfants se disent, il est plus rentable avec papa là de résister que d'obéir. La troisième fois que vous prendrez la décision, tous vos enfants vont se rebeller. Et quand vous avez cédé à l'autre, vous ne saurez pas pourquoi, mais vous céderez à eux aussi. C'est fini. Vous faites ça un certain nombre de fois, vous fabriquez dans votre maison une culture où il vaut mieux vous défier, s'entêter, forcer un peu, que d'obéir. Rapidement, vos enfants, au début, c'est des petites désobéissances, des petites têtes qui font, à un moment, ils vont commencer à vous rabrouer, à un moment, ils vont commencer à vous manquer de respect. Vous êtes en train de fabriquer des impolis, consciemment ou inconsciemment. Mais quand des enfants, quel que soit leur âge, font certaines bêtises, vous frappez du poing sur la table, ils exagèrent, vous frappez. Les enfants se disciplinent très rapidement. Le problème dans la discipline, c'est que quand on laisse l'enfant complètement pourri, et un jour, parce qu'on a honte de ce qu'il est devenu, on veut du jour au lendemain tout redresser, c'est là où ça devient compliqué. Mais si au premier signe de désobéissance de l'enfant, vous le reprenez franchement, c'est rare que cela devienne des cas compliqués. Mais si vous faites preuve de cœur, de sentimentalisme, et vous n'êtes pas capable de reprendre franchement un enfant, si un enfant fait une bêtise, si c'est le papa qui n'a pas le courage de frapper comme moi, c'est le moment qui n'a pas le courage de frapper, quand l'autre veut appliquer la discipline, quitte à sortir à la maison, laissez-le appliquer la discipline. Il faut un peu de discipline pour un enfant. Et en général, plus tôt vous donnerez de la discipline à l'enfant, moins il en aura besoin. Il vaut mieux frapper promptement un enfant. On ne dit pas de terroriser un enfant, de l'attacher, de le frapper. Je ne sais pas pourquoi on a oublié d'attacher un enfant pour le frapper. Les enfants ne sont pas des ânes. Il y a des gens qui dressent leurs enfants au lieu de les éduquer. Il ne s'agit pas de dresser un enfant comme un animal. C'est un animal qu'on dresse. Quand on frappe l'âne, il commence à marcher. On frappe le cheval, il tourne. Ça, c'est du dressage. Si un enfant ne comprend que le langage de la chicotte, il n'est pas éduqué, il est dressé. Et il se comportera comme tout animal dressé. Il s'agit d'éduquer les enfants avec une série de choses dont la sanction, qui n'est même pas toujours le bâton, peut être un outil parfois. Mais ça doit être l'outil de dernier recours. Je ne sais pas si je vais répondre à votre question. Ok, une autre question.
Bonsoir et merci.
Bonsoir.
Ma question est que un enfant qui prie quelque chose que la maman ne lui a pas donné, qu'allons-nous faire pour l'amener à la raison?
Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de quelle chose il s'agit. Ça dépend de quel âge l'enfant a. Ça dépend si c'est la première fois qu'il le fait ou pas. Je donne un exemple. Si votre garçon a 2 ans ou il a 3 ans, vous êtes en train de frire de la viande, il vient, il en prend. Ce n'est pas bon de prendre sans qu'on ne lui ait demandé, mais ce n'est pas affaire d'État, ce n'est pas pour ça qu'il est un voleur. Donc, selon l'âge de l'enfant, Il y a des choses, on ne peut pas dire un enfant de 2 ans, bon, on ne prend jamais, il ne comprend même pas ce que vous dites. Selon chaque âge, il y a des choses qui sont tolérables, il y a des choses qui ne sont pas tolérables. Si l'enfant fait quelque chose parce qu'il a faim, ce n'est pas la même chose que ce qu'il fait parce qu'il veut faire la pagaille. Quand l'enfant fait quelque chose la première fois, c'est le moment de dire non, on ne fait pas comme ça. Dépose, on ne prend pas sans avoir demandé. Et de lui expliquer pourquoi on ne prend pas sans avoir demandé. Dépose, je vais te gifler maintenant. Et c'est fini. Non, non, dépose, ma chérie. C'est la viande, c'est pour ta maman, c'est pour ton papa, tu peux en prendre quand tu veux. Mais dans la vie, il y a des principes. On ne prend jamais quelque chose qui appartient à un autre sans le lui avoir demandé. Et en général, si tu demandes, il te donnera. Mais même si c'est pour ta femme, même si c'est pour ton frère, si tu prends sans lui demander, c'est du vol. Et dans la vie, le vol coûte cher. Donc tu déposes d'abord. L'enfant dépose, il dit, bon, maintenant tu en veux combien d'eux? Ok, prends. L'enfant comprend. C'est ça? Fous le camp! Il ne comprend pas pourquoi tu as crié, il a juste compris, tu parles de la viande, c'est tout. Non, il faut expliquer. Par exemple, on dit aux enfants, avant de rentrer dans une chambre, il faut frapper. Votre enfant arrive, glou, il ouvre. Il ne faut pas dire, il faut frapper, et c'est tout. Ressort. Maintenant, frappe. Oui, c'est qui? Tel rentre. Je t'ai fait ressortir parce que tu ne peux pas rentrer dans la chambre de n'importe qui, même si c'est ta chambre de ton papa, ta maman, même dans la chambre de ton frère et ta soeur, par principe, c'est une règle de la vie. Tu ne peux pas rentrer dans la chambre de quelqu'un sans frapper. La prochaine fois que tu rentres dans ma chambre sans te frapper, je vais te punir. Si c'est un enfant qui est déjà adulte, on n'est pas censé dire ça 3-4 fois. Si c'est un enfant qui a 2 ans, il faut lui dire ça un certain nombre de fois d'abord parce que ça va rentrer dans ses habitudes. Donc il faut faire preuve aussi de sagesse. Et c'est qu'en général, avec vos enfants, il faut faire attention. Il y a des choses que l'enfant fait par ignorance. Il y a des choses qu'il ne fait pas inattention. C'est-à-dire, par exemple, il y a des enfants, on dit, on n'insulte pas. Comme tout le monde insulte dans la maison, l'enfant, quand il a un problème, il se fâche, il insulte. Mais dès qu'il insulte, vous voyez quand même, quand il se ressaisit, il dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Vous-même, quand vous le voyez, vous sentez que, avant même que vous n'ayez parlé, il le regrette. Cet enfant-là n'est pas un enfant rebelle. C'est un enfant qui, à cause des habitudes prises, comme tout adulte qui décide de pas faire le régime, il a du mal avec ses habitudes, mais il est en train d'essayer. On dit, ah non, on a dit qu'on ne fait pas ça. Attention. Fais attention la prochaine fois. Et vous sentez qu'il est en train de faire des efforts, accompagnez-le, félicitez-le pour ses efforts. Mais ne le frappez pas parce qu'il a du mal à se maintenir. Toute personne qui a pris des habitudes ne peut pas les arrêter du jour au lendemain. Parce que vous donnez l'impression aux enfants d'être des tyrans, ils se rebellent. Il faut éduquer les enfants avec discipline, rigueur, mais amour. Par contre, il y a des moments où vous sentez que l'enfant fait la tête, même à 2 ans. Vous sentez, quand on lui parle, il regarde ta réaction. S'il sent que tu n'es pas très sérieux, que tu blagues, il s'entête. Et il surveille. Quand tu deviens sérieux, il s'ajuste. Et là, tu sens que c'est une tentative naturelle de rébellion si tu n'as pas d'autorité. À ce moment, il faut faire preuve d'autorité pour arrêter net cette tendance à la rébellion. Donc, le parent doit voir s'il est dans le cas de l'ignorance, dans le cas du manque d'attention, dans le cas de la rébellion, dans le cas de quoi. Et la rébellion doit être toujours réprimée. Mais l'inattention, la négligence, la mauvaise habitude doivent se combattre, mais avec plus d'amour, plus de patience, parce que généralement, nous sommes aussi responsables du fait qu'il soit survenu. Donc, le parent doit aussi analyser chaque cas pour savoir comment il réagit. Vous avez ça a répondu à votre question un peu?
Merci. Moi, ma question, je voudrais demander comment gérer la domestique pour qu'elle n'affecte pas négativement notre enfant, l'éducation de notre enfant.
Ah, il y a 2 choses. Un, quand c'est possible, on choisit une de bien, ce qui n'est pas si évident de nos jours, parce que souvent, on finit par se contenter de ce qu'on a aujourd'hui, plus qu'on ne peut choisir ce qu'on veut. Sinon, si c'était possible, c'est d'abord qui vous choisissez. Si vous prenez quelqu'un qui est une menteuse, il n'y a aucune possibilité qu'elle n'apprenne pas votre enfant à mentir. Si vous apprenez, vous prenez quelqu'un qui injurie les gens pour tout et rien, votre enfant va injurier, il n'y a rien à faire. Si vous prenez quelqu'un qui est arrogant, qui est impoli, elle va apprendre l'impolitesse et l'arrogance à votre enfant. Mais si vous prenez quelqu'un de sage, de patient, de respectueux, elle va communiquer ça aussi à votre enfant. Donc la première chose, c'est quel est le caractère de votre domestique. Si vous avez le choix, choisissez quelqu'un qui a un bon caractère. Ensuite, évidemment, si vous savez que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec votre enfant et donc qui a une influence sur votre enfant, vous devez prendre la peine de discuter avec elle, de dire par exemple, à telle chose, je n'aime pas que mes enfants fassent ça, pour telle raison. J'essaie de leur inculquer telle valeur. Aide-moi en ne permettant pas telle chose quand je ne suis pas là. Aide-moi en attirant mon attention sur telle chose. Parce que la domestique, il y a 2 tendances. Il y a celles qui vont brimer vos enfants en votre absence, et il y a celles aussi qui font quelque chose de plus mauvais encore de dire, et Camille, l'enfant peut pourrir, ce n'est pas mon enfant, je n'en dirai rien. Vous devez avoir des domestiques qui sont responsables. Ni brimer vos enfants à n'importe quel prix, ni voir vos enfants en train de pourrir et ne pas vous dire. Vous pouvez dire, on ne frappe pas mon enfant. Mais de grâce, quand mon enfant fait quelque chose, c'est pas bien, dis-moi. Ou ça dépend aussi de la maturité de la personne. Donc, si c'est quelqu'un de bien, vous êtes censé pouvoir en faire un partenaire avec qui vous discutez. C'est pas que c'est elle qui va influencer vos enfants. Mais si, dans tous les cas, elle influence, essayez de partager vos objectifs, vos finalités, vos méthodes avec elle pour espérer que, ne serait-ce que partiellement, elle vous aide au lieu de vous compliquer la tâche. Ça suppose que c'est quelqu'un de bien. Et je sais que de nos jours, c'est un luxe à trouver.
Bon, nous sommes en train de constater quelque chose aujourd'hui par rapport à nos parents. Parce que je ne vais pas dire seulement les parents d'élèves, moi aussi je suis parent. et l'autorité parentale est mal gérée. Il y a une confusion qui se fait, ou bien un constat qui se fait, soit le parent rentre dans l'excès par rapport à son autorité, ou bien il est complètement complaisant pour qu'on ne le traite pas de parent. Parce que, à cause de ses antécédents, lui, il a été très maltraité par ses parents. C'était vraiment très dur. Et il ne veut pas, il a souffert de cela, il ne veut pas que son enfant en souffre aujourd'hui. Mais c'est mal géré, je veux dire. C'est mal géré, il n'y a pas le juste milieu. Et on tombe dans la complaisance et puis les enfants deviennent n'importe quoi.
Non, vous avez tout à fait raison. C'est lié à tout ce que nous avons dit. D'abord, de savoir quelle est la finalité, de savoir ce que chacun de nos comportements a comme résultat sur l'enfant, de savoir aussi qu'il y a, comme je dis, selon le cas, selon la rébellion, selon juste l'ignorance, selon tout ça, ce n'est pas la même réaction qu'il faut avoir. Et l'autre aussi que beaucoup de parents ont du mal à faire, c'est qu'ils n'ont pas un grand échantillon d'outils pour discipliner l'enfant. Entre ne rien dire et attacher l'enfant pendant 3 heures de temps pour le frapper, il y a beaucoup de choses. Je donne un exemple. Moi, je suis très proche de mes filles, elles m'adorent, tout ça. Mais le simple fait que je dise à mes filles ou à mon fils, papa est fâché, leur fait plus mal que certains enfants qu'on frappe. Parce que nous sommes tellement proches, nous sommes tellement complices, elles adorent tellement que je sois là. Et moi, je ne vois pas, c'était pareil quand j'étais enfant. Quand mon père dit, Edgar, tu m'as déçu, c'est une grosse sanction pour moi. Je ne sais pas si certains voient ce que je dis, il faut l'avoir vécu peut-être pour le comprendre. C'est-à-dire qu'on peut discipliner un enfant en lui faisant mal. Mais il y a aussi la technique qui dit, on est tellement gentil avec son enfant que. Le simple fait de dire, là tu m'as déçu, l'enfant se sent déjà coupable. Le fait de dire, ok, je suis fâché, ce soir on ne sort pas. C'est-à-dire, discipliner l'enfant, c'est juste lui montrer qu'il perd à mal faire et qu'il gagne à bien faire. Selon vos moyens, selon votre environnement et qu'on sort, il y a 1000 manières d'organiser cela. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Parfois, priver l'enfant de quelque chose auquel il tient, lui donner un cadeau quand il a bien fait. Il aime regarder la télé, vous lui refusez de regarder la télé. Tant que vous le privez de quelque chose auquel il tient, il est sanctionné. Et même là, vous allez voir, ça dépend des enfants. Un enfant qui n'aime pas la télé, vous le privez de télé pour le sanctionner. Vous n'avez rien fait. Il y a d'autres enfants, par exemple, vous avez un enfant qui aime jouer au football. Tous les mercredis soir, il va jouer au football avec ses amis. Vous le privez de football parce qu'il a fait une bêtise. C'est une sanction parfois plus grande pour lui que de le frapper. Il y a des enfants qui disent, tous les cas que tu vas faire, il va me donner des coups de palmatoire. Non, bon, je suis préparé à ça. Quand l'enfant atteint ce point-là, vous ne pouvez plus avoir aucune influence sur lui. Donc, vous devez constamment guetter l'enfant et repérer à quoi il est sensible. Mon arrivé moment, je vous présente ma mère, Marie-Paul Guidibi, puisqu'on parle des parents, et je disais tout à l'heure que je leur dois beaucoup, avec une de ses amies. Nous sommes en train de faire une formation sur comment être des parents responsables pour des parents d'élèves. Donc je vous présente ma mère comme par hasard. Ah, Dieu ne fait rien par hasard. Vous voyez? Donc, vous devez connaître aussi vos enfants pour savoir à quoi ils sont sensibles. Il y a des enfants, par exemple, qui disent, ah, je veux voyager pour les vacances. Il n'y a pas de problème. Si tu es promis en classe au moins 3 fois dans l'année, je t'offre un billet. Mais sachez aussi que les sanctions positives, se battre pour atteindre un cadeau, motive davantage qu'avoir peur de quelque chose. Parce que nous agissons souvent pour 2 raisons. Soit parce que nous visons quelque chose, soit parce que nous fuyons quelque chose. Quand quelqu'un achète un bœuf pour fêter son anniversaire, c'est une chose qu'il a fait parce qu'il a envie de se faire plaisir. Mais quand quelqu'un achète un bœuf parce que c'est peut-être l'enterrement de son beau-père, et puis il sait que s'il ne fait pas, il a des problèmes, là, ce n'est pas affaire de plaisir. C'est affaire de. Il a fait pour ne pas avoir des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux contribuent à coacher quelqu'un. Les deux doivent exister dans l'éducation. Il y a des choses qu'on fait pour que l'enfant se batte, tende vers quelque chose. Se dit, si j'atteins tel résultat, maman va me donner telle chose ou va me permettre telle chose. Mais il y a des choses qu'on fait pour dire, parce que tu as fait ça, tu perds ça. Mais il faut toujours être très juste et très équitable dans la sanction. Si vous avez différents enfants, traitez-les de la même manière. Vos enfants ne doivent pas avoir l'impression qu'avec telle personne, vous êtes plus large qu'avec telle autre. Car certains vous permettent certaines choses et à d'autres vous ne les permettez pas. Parce qu'ils finissent par se dire que tout ce que vous dites est juste pour leur faire mal. Vos enfants ne doivent pas avoir l'impression que dans l'éducation, vous voulez juste leur nuire. Ils doivent sentir, mes parents même, c'est vraiment pour mon bien qu'ils ont fait ça. La preuve, ils sont justes. La preuve, ils sont équitables. Si tu ne veux pas avoir de problème avec papa, il suffit de bien te comporter. Quand les enfants savent que vous êtes justes et que les mêmes causes produisent les mêmes effets, cela leur facilite la soumission. Mais quand ils sentent de l'injustice, comme chacun de vous, quand vous sentez l'injustice, ils se rebellent. Et quand les enfants se rebellent, ce n'est pas forcément très facile à gérer. Vous allez les frapper jusqu'à quand? Et après? Donc, il faut intégrer tout cela. Et il faut prier aussi beaucoup pour que Dieu vous donne la sagesse. Éduquer un enfant, c'est peut-être la chose la plus compliquée d'une vie. Demandez à Dieu de vous aider. C'est lui qui nous a fabriqué, qui a fabriqué les enfants. Et il est aussi un parent. Des questions?
Oui. Ouais. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, moi, je voudrais savoir, à force de vouloir que nos enfants soient ceci, cela, est-ce qu'on n'oublie pas un peu eux-mêmes leur personnalité? Ça, c'est un. Secondo, il arrive parfois que les enfants nous mentent pour nous faire plaisir. Ce sont les parents qui entraînent ça, parce que c'est vrai que par rapport à l'éducation, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire ça. Ils savent que papa n'aime pas ça ou maman n'aime pas ceci. Et voilà qu'ils l'ont fait, donc pour ne pas foncer papa, ils te disent qu'ils n'ont pas fait. La troisième question, c'est pour savoir, vous, monsieur le conférencier, en tant que parent, vous êtes fier de vos enfants, de votre fils, qui un jour s'en va, vous dit qu'il s'en va à Saint-Michel, et vous le retrouvez à Ganry. Quelle réaction vous voulez avoir? J'en ai fini.
Ok, alors merci. Première question. J'en ai parlé un peu tout à l'heure en disant, quand je parlais de ce que vos enfants vont devenir, que vous avez le devoir de rêver pour vos enfants, d'avoir de l'ambition pour vos enfants, de prier pour vos enfants, de les pousser vers une direction que vous croyez bonne. Mais vous avez aussi le devoir de faire attention, surtout quand ils vont grandir à un certain moment, à guetter quelle est leur destinée, quel est leur caractère, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, quels sont leurs dons naturels. Il se peut que leur don naturel les prédispose à faire ce que vous avez rêvé pour eux, tant mieux. Mais il se peut que leur destin ne soit pas du tout de faire ce que vous avez rêvé pour eux. Leur destin ne peut jamais déjouer. Elle sera toujours de réussir. Mais peut-être pas sur le chemin que vous aviez prévu. À ce moment-là, une bonne éducation est toujours utile, quoi qu'on fasse. Mais comme je disais, j'ai donné l'exemple des médecins. Ne vous dites pas parce que moi je voulais être docteur, je n'ai pas pu, mon enfant sera docteur, qu'il lui plaise ou non. Non, c'est lui qui va faire la carrière de docteur. Nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui sont malheureux parce qu'ils font leur métier sans vocation. Enseignants, il y en a plein aujourd'hui qui n'ont plus de vocation. Médecins, il y en a qui n'ont pas de vocation. Formateurs, il y en a qui n'ont pas de vocation. Si vous faites dans la vie quelque chose sans vocation, vous serez toujours le dernier dedans. Quand celui qui a une vocation arrive quelque part, les choses lui sont naturellement faciles. Et chacun de nous a une vocation. J'explique ça souvent de la manière suivante. Dieu n'est pas plus bête que les hommes, contrairement à ce que nous croyons. Dans tout domaine, la création, la fabrication de toute chose est toujours précédée de sa finalité. C'est-à-dire quoi? Personne ne crée quelque chose pour se demander après qu'est-ce qu'il fera. C'est après avoir décidé ce que quelque chose doit faire qu'on décide de combien il sera et qu'on le fabrique. Si j'ai cette chaise-là, quelqu'un ne l'a pas fabriquée pour demander à quoi ça va servir. On a dit, ah, on peut s'asseoir dessus. Non. Quelqu'un veut s'asseoir, donc il veut poser ses fesses. C'est pour ça qu'il a prévu ça. Il se dit, je ne dois pas avoir mal au dos. Il a prévu ça. Il se dit, mais quand même, mes mains, il faut les reposer. Il a prévu ça. Ça ne doit pas être trop lourd. Ça doit être facile à placer. Il a prévu le plastique. Ça peut rester dehors et s'il pleut, il a pris le plastique. C'est parce qu'on a réfléchi clairement qu'on a décidé ce que quelque chose veut faire. Qu'on le conçoit et qu'on le fabrique. On ne fabrique rien pour demander qu'est-ce qu'il va faire. On est d'accord? Cela veut dire que contrairement à ce que vous pensez, quand un enfant naît là, Dieu l'a conçu dans sa race, dans sa taille, dans sa grosseur, dans son intelligence, dans ses défauts, dans ses qualités, dans ses dons, en prévision de quelque chose. Pour s'en dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne fait rien par hasard. Si quelqu'un est gros, c'est que dans le plan de vie que Dieu lui a prévu, il fallait qu'il soit gros à ce moment-là. Et quand nous disons par exemple aujourd'hui à l'université, même moi j'ai enseigné ça, aujourd'hui j'explique aux gens que nous avons tort, qu'il faut faire le choix de carrière et puis on fait comme si à un moment donné l'enfant peut choisir comme ça lui plaît ce qu'il va faire. C'est faux. Avant de naître, nous sommes destinés à quelque chose. La famille dans laquelle Dieu nous a fait naître là n'a pas été choisie par hasard. Si on est béninois et pas français, c'est pas par hasard. Si on est noir sous le soleil et pas blanc et qu'on n'est pas obligé de se dépigmenter, c'est pas par hasard. Tout ce que Dieu vous a donné, il l'a donné pour quelque chose. Quand Dieu vous donne certains tempéraments, certaines qualités, certaines facilités, c'est parce qu'il vous a tracé un boulevard quelque part. Si vous prenez ce boulevard-là, tout vous réussira facilement. Mais si vous laissez ce boulevard pour faire autre chose, tout votre vie sera chaos. Je donne un exemple. Le couteau est bon pour découper la viande. Mais même si on met ça à table pour le repas, si tu prends ça, tu veux commencer à servir la sauce avec, tu vas passer une heure, ton plat ne sera pas plein. Et là, mais pourquoi ça ne marche pas, le couteau là? Le couteau, ce n'est pas affaire de couteau, il faut laisser le couteau aller prendre cuillère. De la même manière que si tu prends la cuillère, comme je vois des gens le faire, pour essayer de découper la viande de bœuf, tu vas peut-être y arriver, mais tu vas te faire très mal à la main. La cuillère, c'est pour prendre la sauce, pour prendre le riz, pour prendre la bouillie. Si tu prends la scie, tu ne peux pas enfoncer un clou dans le mur avec l'arrière de la scie. La scie, c'est fait pour couper. De la même manière, le marteau ne peut pas te couper du bois. Ça peut te casser le bois peut-être, mais c'est fait pour enfoncer un clou. Le problème que nous avons souvent dans la vie, c'est que nous sommes conçus pour quelque chose. Nous laissons ce pourquoi Dieu nous a conçus et nous allons faire ce qui nous plaît. Il n'y a aucun moyen pour une cuillère de bien couper de la viande. Quand on veut couper de la viande, on prend les couteaux. Si vous êtes une cuillère, cherchez à manger du riz, de la bouillie, laissez tomber afin de couper la viande. Donc, beaucoup de gens font de mauvais choix de carrière, prennent de mauvais métiers. Ils ne tiennent pas compte de comment Dieu les a conçus. On dit orientation professionnelle, on choisit les filières selon ses amis, selon ses parents. On va n'importe où. Et il y a des métiers dans lesquels vous ne serez jamais bon. Vous n'êtes pas fait pour ça. Et vous allez voir souvent, l'un des problèmes que les jeunes ont souvent, bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais j'en parle brièvement, c'est que les parents méprisent leur destinée. Je donne un exemple. Vos enfants, par exemple, vous avez un enfant qui aime faire rire les gens. Lui, là, il se tout l'ennui, Mais quand il s'agit de faire rire les gens peuvent, aller, peuvent être endeuillés n'importe où. Quand votre enfant arrive, tout le monde rit, tout le monde est de bonne humeur. Quelqu'un peut être malade, peut avoir des soucis n'importe comment, il arrive, il y a la bonne humeur. Et votre enfant n'aime que faire des choses comme théâtre, faire rire les autres, et il veut même parfois laisser l'école pour faire ça. Il ne faut pas lui permettre de laisser l'école, l'école c'est important. Mais il faut l'encourager dans ce chemin. S'il décide, quand il a le bac, il dit, je veux en faire mon métier, ça va pas chez toi, tu vas manger comment? Comment tu veux manger en faisant rire les gens? On n'a jamais vu personne manger. Mais ce n'est pas parce que personne n'a jamais mangé en faisant rire les gens que lui ne mangera pas en faisant rire les gens. Les gens qui ont fait Pure Water, tous les Benoît font Pure Water aujourd'hui. Un Nigérien est devenu milliardaire d'un côté, devenu milliardaire en vendant des Pure Water. Plein de gens l'ont imité, aucun d'entre eux n'est encore millionnaire. Quand Dieu a écrit quelque chose sur vous, si c'est de bailler la rue, si c'est de vider les faux sceptiques, ce que Dieu a écrit sur vous là, tout le monde trouve ça ridicule, trouve que ça ne vaut rien. Mais quand vous rentrez dedans, vous allez aller tellement loin que d'autres vont croire que c'est le métier qui est bon. Ils y rentrent, ils vont faire faillite. Et Dieu fait exprès. Parce que Dieu, quand il donne quelque chose à quelqu'un, il protège la chose. Si Dieu a par exemple prévu que votre enfant devienne un spécialiste pour donner la bonne humeur aux gens, un gars qui par exemple va aller d'hôpital en hôpital donner la bonne humeur aux gens, qui va aller voir des hommes d'État, des gens riches qui ont des soucis, qui vont les moraliser, tout ça, les motiver, ça peut lui rapporter des milliards dans sa vie, là où les professeurs Mombi sont morts en ayant faim. Votre enfant, si c'est sa destinée, tout le monde lui dira, mais tu es fou, mais si c'est sa destinée, il ne peut réussir dans rien d'autre. Et vous allez voir que tout, là, tout le pouce vers là, il est d'accord pour étudier, mais il dit, laissez-moi faire ça. Vous allez dire, mais personne ne fait ça, comment tu vas t'en sortir? Notez une chose, ce qui est pour vous là, Dieu fait toujours en sorte que vous, vous trouviez ça très facile. Vous, ça vous plaît, vous, ça vous passionne, vous pouvez faire ça des heures, même si on ne vous donne rien. Mais tout le monde trouve que c'est mauvais. Pourquoi tout le monde trouve que c'est mauvais? Parce que Dieu protège une mine d'or pour vous. S'il y a une mine d'or quelque part, je cache par exemple 1 million sous ce haut-parleur. C'est 1 million, ça a de la valeur si personne ne le sait, que quelqu'un le trouve. Mais si je dis même à vous qui êtes ici là, qui a 1 million là, vous le prenez, vous devez le partager, chacun va peut-être avoir 20 ou 30 milliards, plus de fortune. Un trésor, regardez les dessins animés pour les enfants. Il y a toujours un trésor, beaucoup de gens cherchent, une seule personne trouve. Si 10 personnes trouvent le trésor, il n'y a plus de trésor. Donc Dieu, quand il sait par exemple qu'un enfant est né, sa destinée c'est de devenir le leader dans la détente des gens au monde. Jusqu'à ce que le moment où lui va le faire arrive, tout le monde va trouver qu'il n'y a rien là. Il n'y a rien là, un petit dauphiné. Mais lui va avoir reçu de Dieu toutes les qualités, tous les talents pour être extraordinaire dans ce domaine. Quand le moment viendra, il sera attiré par cette voie que Dieu lui a tracée et que Dieu lui a protégée en faisant en sorte que ça n'intéresse personne. Ça peut intéresser les gens avec lui, tout le monde l'aurait fait avant lui. S'il n'est pas bien coaché et qu'il se détourne de cette voie et que Dieu sait maintenant qu'il a refusé, Dieu peut l'ouvrir à quelqu'un. Mais s'il le comprend, il rentre dans un secteur où apparemment il n'y a rien, tout le monde ne comprend rien, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Moi-même qui suis ici, mon père est formateur, il était l'un des plus grands formateurs du pays. Mais on n'a pas le même style. Quand moi je suis rentré, j'ai commencé à dire, bon moi vos trucs en salle, 10 personnes là, ça ne m'intéresse pas. Je veux parler à des milliers de personnes, je veux faire des formations sans aucun papier. Mon propre père qui a amené le management au pays, au bénéfice moqué de moi. Mais tu es fou Edgar, tu ne vas jamais t'en sortir. Moi je suis dans ce pays depuis 40 ans, tu peux me parler des 10 pays noirs et leur parler. Les Bénois ne viennent jamais en formation. Qui toi tu es? Tu n'as aucune expérience, tu as à peine 20 ans, tu dis que tu as réuni des gens pour leur parler. Tu vas leur parler de quoi? Mon père s'est moqué de moi. Non, pour faire un séminaire, il faut prendre des papiers, il faut prendre des PowerPoint, il faut lire, tout ça. Je dis oui, mais moi je ne sens pas ça comme ça. Moi tu peux me lever à 2h du matin, je vais te parler. Non, tu n'iras nulle part dans la vie. Qui va venir? Mais aujourd'hui on en est où? Tous mes frères sont au Canada, on est 5. On est tous partis au Canada, tout ça va. Moi, je n'ai même pas déposé, j'ai déposé mon mémoire, je n'ai même pas attendu la note, je suis parti. Je savais que ma vocation était au Bénin. Tout le monde m'a trouvé fou. Je suis arrivé, mon père essayait de m'obliger à travailler dans une banque. Parce qu'il fait du recrutement, il a négocié malgré moi un poste pour moi dans une banque. On m'a appelé à l'entretien, j'ai saboté l'entretien de recrutement. Parce que je savais que mon caractère là, je ne peux pas travailler dans une banque. Une banque, c'est ennuyeux, des procédures, on obéit bêtement comme des idiots, on ne veut pas quelqu'un qui réfléchit dans une banque. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, j'ai fait les entretiens, je leur ai dit ça ne m'intéresse pas. Ils ont continué jusqu'au DG de la banque. Le DG de la banque me dit, mais monsieur Guidibi, est-ce que vous êtes capable de travailler avec nous? Je dis non. Il dit non. Il dit pourquoi? Je dis parce que vous allez m'ennuyer. Il n'a jamais vu ça. Vous allez m'ennuyer. Il me dit comment ça? Je dis, moi je suis un mercenaire. Je veux des combats à gagner. Je ne veux pas être un soldat qui dit bonjour colonel tout le matin qui balaye vos cavernes. Oh vous les banquiers là, vous ne faites que la routine. Je veux de l'innovation, je veux prendre des risques. Je veux sortir des habitudes, créer du nouveau. Vous êtes d'accord? Il dit bon, tu dis bonjour à ton papa, on va s'appeler après. Moi je suis parti. Il ne m'a plus jamais appelé. J'ai saboté mon recrutement parce que je savais que ma vocation n'a rien à foutre avec une banque. Mais je rends grâce à Dieu, j'ai pu faire ça parce que même si ce jour-là, mon père voulait m'obliger à prendre cet emploi, il m'avait bien avant programmé pour savoir foncer quand je le veux. C'est-à-dire que quand vous éduquez bien vos enfants, vous leur donnez certaines valeurs. Quand vous-même, vous allez voir les éduquer en erreur, les valeurs que vous allez leur donner là vont les protéger contre vous-même. À ce moment-là, le tempérament, l'audace, le courage que mon père m'a donné m'a protégé contre lui-même. Il a dit non, ça ne marche pas. Après, il a demandé à travailler avec lui. J'ai travaillé depuis 2 ans. On a fait du boulot extraordinaire. Un moment, il dit, papa, moi ça marche plus. Il dit pourquoi? Je dis, je me sens comme dans une équipe où on ne marque pas de but. On fait des dribbles, on a de bons milieux de terrain, on ne marque jamais de but. Moi, je veux marquer des buts. Non, patienter, tout ça. Mais c'est pas malin de tourner là. Moi, ça m'ennuie, on doit aller plus vite. On ne s'est pas entendu. Mais il ne peut pas avoir deux capitaines dans le même bateau. J'ai négocié avec ma maman, gentiment, j'ai demandé à partir. Et je suis parti. J'ai créé ma propre boîte. Mon père dit, tu ne vas jamais réussir. On en est aujourd'hui, il est fier de moi. Je suis rentré à la prison, on dit, je vais couler. Est-ce que je vais couler? Je suis sorti. Quand Dieu est avec vous, vous avez un chemin à faire. Vous devez avoir le courage de le faire. Et si vous êtes un parent, sachez voir la destinée un peu. Dites à votre enfant à chaque étape, sois prudent. Fais attention. Si c'est l'honnêteté, sois honnête jusqu'au bout. Ne mange jamais, ne vole jamais, ne te laisse pas corrompre. Il y a des valeurs. Moi, j'ai fait la politique. Personne ne peut me regarder en face aujourd'hui et me dire que je dois quelque chose à quelqu'un. Combien de personnes peuvent faire la politique, sortir, ne pas se cacher et s'afficher sur des banderoles, sur des panneaux à la télé? Ça veut dire que quelque part, l'éducation qu'on m'a donnée, même dans les milieux les plus pourris, m'a protégé. Après, mon père n'était pas d'accord que j'aille à la présidence. Bon, mais il ne m'en a pas empêché. Donc, vous ne pouvez pas toujours contrôler la destinée de votre enfant, point pour point. C'est Dieu, c'est l'enfant de Dieu, ce n'est pas votre enfant. Dieu vous l'a confié à gérer. Mais vous devez lui enseigner les fondements. Les fondamentaux qui vont lui permettre de réussir dans la vie. Et après, priez beaucoup pour lui, pour que dans tous les cas, la volonté de Dieu soit faite et donnez-lui les conseils qui seront valables, quel que soit le chemin qu'il prend. Et s'il doit prendre un mauvais chemin, ne vous dites pas tant pis pour lui. Suivez-le dans ce chemin, continuez de le conseiller dans ce chemin. Votre deuxième question, c'était à propos de si les enfants vous mentent, c'est votre faute. Oui, quand ils viennent vous faire plaisir. Oui, c'est lié à plusieurs choses. D'abord, il faut décourager le mensonge. Moi, je me rappelle par exemple ma mère qui est partie. Elle m'a rarement frappé, mais elle me frappait plus pour avoir menti que pour ce que j'ai fait. Et moi, je savais que dans ma maison, quelque chose que je fais, on ne me frappera jamais. Mais si je mens, même si ce n'est pas quelque chose d'important, on me frappera. Donc, j'ai été programmé, même si vous voulez me tuer, je ne peux pas vous mentir. Ça fait que certains m'aiment, ça fait que d'autres me détestent, c'est tant pis. Mais moi, je suis programmé pour ne pouvoir rien dire d'autre que la vérité. Ça plaît, ça ne plaît pas, c'est comme ça la vérité. Là, monsieur le président, je suis désolé, c'est ça la vérité. Donc, tout dépend de ce que vous apprenez à vos enfants. Si votre enfant fait que papa ne veut pas juste entendre de belles choses. Il veut la vérité. À ce moment-là, il ne vous dira pas le mensonge. Mais s'il a l'impression qu'après tout, le plus important, c'est de faire plaisir à papa et qu'il n'y a pas une règle sacrée sur la vérité, votre enfant pourra vous mentir. La deuxième chose, c'est que votre enfant va avoir tendance à vous mentir. Pourquoi? Parce qu'il fait derrière vous ce que vous ne voulez pas qu'il fasse quand vous êtes là. Cela est dû au fait que votre enfant sait que vous n'aimez pas ça, mais n'est pas convaincu que c'est mauvais. Bon, nous avons tous été des enfants. Si tu réalises que ce que ton papa n'aime pas, n'est vraiment pas bon, que ce n'est pas dans ton intérêt. Papa est là, papa n'est pas là, tu ne le feras pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais si tu penses que c'est simplement à cause de papa qu'il ne faut pas le faire, tu le feras quand papa n'est pas là, tu le mentiras quand il viendra. Si vous passez votre temps à montrer à votre fille que vous ne voulez pas qu'elle se prostitue, quand vous êtes là, elle se comportera bien, mais dans votre dos, elle se prostituera. Mais si elle comprend qu'en tant que femme, elle est perdante sur toute la ligne à se prostituer, vous êtes là, vous n'êtes pas là, elle ne va pas se prostituer. D'abord pour elle, même pas à cause de vous. Et c'est là où je dis qu'au-delà de dire aux enfants, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut prendre le temps de les convaincre. C'est pas de leur dire. De les convaincre que ce n'est pas bon. De les convaincre que ce n'est pas dans leur intérêt. Pour dire à votre fille, ma fille, moi je suis un homme. Voilà ce que moi j'ai fait dans ma propre fille. Dans tel cas, j'ai fait ci. Dans tel cas, j'ai fait ça. Ton copain qui court derrière toi là, dis-lui telle chose, tu vas voir comment il va réagir. Pose-lui tel problème, tu vas voir comment il va réagir. Comporte-toi de telle manière, tu reviendras me dire comment il va faire. Quand tu vas venir là, papa, j'ai dit ça, il est fâché. Ah, voilà, j'ai fait ça pour que tu comprennes. Nous, les hommes, là, c'est comme ça, on est. Que personne ne te blague. Que personne ne te blague. Quand vous travaillez comme ça, vous démontrez, c'est pas que vous dites, vous démontrez à votre enfant ce qui est bien. Vous lui démontrez ce qui est mal. Vous êtes là, vous n'êtes pas là, même si vous êtes mort, elle ne fera jamais ce qu'elle sait mal. Et elle fera toujours ce qu'elle sait bien. Mais si elle ne sait pas que c'est bien, c'est mauvais, c'est juste que papa n'aime pas, elle fera ce qu'elle veut. Bien au contraire, les enfants ont même tendance à aimer spécialement faire ce que les parents n'aiment pas. Moi, je connais des gens qui disent, je n'ai épousé ce garçon-là que parce qu'un parent dit jamais lui. Il y a plein de femmes comme ça. Hein. Quand votre fille avec un gars ne commettez jamais l'erreur, dit jamais de mon vivant tu ne l'épouseras. C'est là où vous venez décréter leur mariage. Si vous voulez que votre fille s'attache à un homme, décidez que jamais de votre vivant ils seront ensemble. Et vous allez voir qu'ils seront ensemble. Parce que ça devient un défi pour l'orgueil de l'enfant. Il vaut mieux faire semblant de n'avoir rien contre et manœuvrer pour qu'elle se rende compte elle-même qu'il est mauvais. Si vous n'aimez pas ce garçon parce que vous savez que c'est un courant de jupon, organisez les temps et les circonstances pour qu'elle voit même que c'est un courant de jupon. Si vous savez que c'est un escroc qui n'est là que pour son argent, organisez avec elle ou sans elle des stratégies pour qu'elle découvre elle-même qui n'est là que pour son intérêt. Quand elle va découvrir que celui qu'elle prend pour un amoureux n'est qu'un escroc, vous n'aurez pas besoin de lui dire pour qu'elle le lâche. Mais si au lieu de faire ça, vous décrétez jamais de mon vivant, je vais te tuer tout ça, c'est là où vous venez de les souder. Donc il faut faire aussi un peu de stratégie dans l'éducation de nos enfants. La dernière question est liée à cela. Vous découvrez votre enfant à Gantry alors qu'il était à Saint-Michel, c'est vrai que c'est énervant. Parfois, il ne faut rien dire sur le coup parce que tout ce qui est fait sous la colère n'est que péché. Prenez le recul. Laissez la situation se calmer et appelez votre enfant, parlez-en objectivement à lui. C'est vrai que c'est tentant de s'énerver, de le frapper, de crier. Parfois, on ne peut pas se retenir, on le fait. Ce n'est pas grave. Mais l'idéal, c'est de pouvoir se calmer, d'en parler à sa maman. Et ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Plus il est petit, plus peut-être on peut aller à la sanction, à la discipline sévère. Mais si votre enfant a 15 ans, vous ne pouvez plus en faire rien. Même si vous le frappez, vous ne faites que compliquer le problème. S'il a 18 ans, c'est encore plus grave. Vous voulez faire quoi là? À ce moment-là, moi, je crois qu'il vaut mieux encore que votre enfant vous fasse confiance et s'ouvre à vous. Moi, je connais des gens dont la fille peut venir leur dire, « Papa, aujourd'hui, mon copain m'a proposé de faire l'amour avec lui. J'ai failli accepter, mais on n'a pas eu le temps. » Même si le papa a envie de s'énerver, il doit se calmer. Parce que si votre fille se rend compte qu'il y a des vérités que vous ne pouvez pas entendre, elle sélectionnera ce qu'elle peut vous dire. Donc, si vous êtes là, votre fille vous dit, « Aujourd'hui, j'ai fait l'amour avec mon copain. » Même si vous avez envie de crier, calmez-vous d'abord. Pour qu'elle ne se rende pas compte qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas entendre. Et vous réfléchissez pour vous-même. Comment je peux revenir sur ça? Moi, j'ai ma fille qui a 7 ans qui vient me dire, papa, ah, mon amoureux s'appelle tel. Je dis, amoureux à 7 ans? Hein, c'est tel. Et puis l'amoureux de Charmy qui a 5 ans, c'est tel. Je dis, dans quel monde on est? Mais je ne lui ai pas montré que ça me choquait. Je dis, ah bon? Ah, félicitations, tu me le présentes quand? Et c'est un autre jour, j'ai réfléchi, mais comment je peux revenir sur le problème? Elle dit, mais un amoureux, c'est quoi, ma chérie? Et j'ai commencé à dire, mais un amoureux, c'est si, dans la vie, tu sais, Dieu nous a fait, plus quelque chose a déjà été utilisé par quelqu'un, plus les autres n'en veulent plus, n'est-ce pas? Elle dit, oui. Je dis, mais en tant qu'homme, si ma femme a déjà été la femme de quelqu'un, je n'en voudrais plus. Si tu as un copain aujourd'hui, lui, il est petit. Donc, j'ai dû parler en jouant tout ça, pour comme si c'était quelque chose de banal, une discussion. Et elle a fini par dire, mais c'est vrai en plus, il se moque de moi celui-là. Mais en jouant avec votre enfant, c'est énervant. Mais vous êtes obligé de vous calmer et de l'amener à ce que vous voulez qu'elle comprenne. Mais si vous prenez ça, si l'autorité se range, dans tous les cas, elle n'arrêtera pas. Vous ne pouvez pas empêcher un enfant aujourd'hui, si tout le monde le fait, elle aura tendance à le faire. Mais elle vous le cachera. Il vaut mieux voir les choses qui se passent pour réagir que de croire que tout va bien et le jour où vous apprenez qu'elle est déjà devenue enceinte. C'est ça la douleur des parents. Bon, peut-être que vous avez fait endurer ça aussi à vos parents, à vous. Bon, c'est la destinée d'un parent. Et je crois que nous devons prier beaucoup en tant que parents aussi pour avoir la patience. C'est un mot d'or. Dieu est patient envers nous, sinon je crois que personne ne serait plus vivant. Nous sommes obligés d'être patients envers les enfants, de savoir que même s'ils nous énervent, ce n'est pas pour nous énerver. Nous sommes passés par là. Il faut se mettre à leur place. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'ils croient gagner? Qui les influence? Dans quelle logique ils sont? Et faire preuve d'intelligence petit à petit pour corriger ça. La violence n'a jamais réglé le problème. Il y a des moments où effectivement on est obligé de sanctionner, mais durablement, il faut régler le problème par la persuasion. Oui, papa.
Bon, et les enfants sont suivis, programmés, on reste avec eux, on fait tout. Est-ce que les influences extérieures ne peuvent pas agir en bien ou en mal contre les éducations, ce que les parents ont donné à leurs enfants?
Oui, j'en ai parlé tout à l'heure en disant que déjà, si vous ne faites pas votre travail, là, les influences extérieures sont les maîtres. Mais même quand vous faites votre travail, les influences extérieures sont une force qui agit sur eux quand vous agissez sur eux. Et les influences extérieures sont tentantes. Vous savez, dans la vie, le diable est toujours séducteur. Ce qui est mauvais a toujours l'air d'être très attrayant. Mais quand on le prend, ça devient des soucis. Ce qui est bon a toujours l'air très pénible et très difficile. Mais quand on le prend, c'est le bonheur. Tout ce que Dieu donne, toute vérité, toute valeur, toute chose bien, n'est suivi d'aucun chagrin, mais est difficile à prendre. Tandis que les choses mauvaises, c'est facile, c'est un boulevard. Mais quand tu y vas, c'est la mort. Vous devez donc savoir que l'influence des mauvaises choses, de la télé, des amis, des personnes de mauvaises mœurs sur votre enfant aura tendance à être plus facilitée que la vôtre. Donc, vous devez faire beaucoup pour neutraliser cette influence. Il y a plusieurs choses. Évidemment, il faut repérer les sources de cette influence. Si vous pouvez les couper, coupez-les. Si vous ne pouvez pas les couper, voyez au moins ce qu'ils diffusent pour y réagir. Quand vous voyez, par exemple, que votre enfant a vu telle chose à la télé, par exemple, des fois, moi, je suis là, les enfants regardent la télé, on voit des filles habillées, mal habillées, en train de danser, tout ça. J'essaie de parler avec elles pour moi-même. Audrey, qu'est-ce que tu penses de cette personne? Hélas, je prie, la petite, elle est du genre plutôt aimée, la mode et consort. C'est celle qui, à 3 ans, lui dit, qu'est-ce que toi, tu veux être? Elle dit, Miss. Adrien dit, Miss, oui, pas Miss Bénin, hein, Miss Côte d'Ivoire aux États-Unis. Donc, elle choisit même l'endroit où c'est le plus pourri. Parce qu'elle, je vois déjà sa tendance, elle est très belle, elle aime les belles choses, elle met la star, elle n'aime que les poupées qu'on sort. C'est une tendance naturelle que je surveille et que je prie pour arriver à canaliser. Parce qu'on voit bien les tendances des enfants. L'autre est plus responsable, elle est un peu comme un garçon, elle s'en fout, maquillage, tout ça. L'autre, Charm, il va te demander tout le temps de maquillage, je voudrais, s'en fout. Donne-moi des bigs, donne-moi des crayons, donne-moi un ordinateur. Elle, elle est plutôt comme ça. Donc, on dit, je dis n'importe quoi, elle s'ennuie, elle est presque nue, pourquoi elle sort de chez elle comme ça, ou est-ce sa maman, ainsi de suite. Donc, tu es obligé de faire parler les enfants pour que dans leur discussion, Tu attires sans juger leur attention sur ce qui est anormal pour qu'elles viennent elles-mêmes à comprendre qu'elles le voient, mais ce n'est pas normal. Et par exemple, il y a tel autre clip, ah, eux ils sont bien habillés, ça c'est un joli clip, les autres, ça c'est pas gentil, ainsi de suite. Donc, parfois, tu ne peux pas simplement éteindre la télé. S'ils ne regardent pas chez toi, peut-être ils vont le regarder ailleurs. Et quand tu ne seras pas là, quand ils vont regarder la télé, qu'est-ce qui va se passer? Si tu es là, il y a une scène obscène qui passe à la télé. Bon, ils ont déjà vu, tu ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Tu es obligé maintenant de développer une éducation pour corriger ceux qui viennent de consommer. C'est comme quand on prend un produit toxique, il faut boire quelque chose pour le neutraliser. Donc, il y a cette dimension-là que de venir corriger la mauvaise influence. L'autre dimension, c'est qu'on dit, enseigne les bonnes voies à tes enfants. Quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Plutôt et mieux, vous inculquez les bonnes valeurs à vos enfants, plus vous avez des chances que face à la pression, à l'influence extérieure, ils soient imperméables. Moi, je détestais les boîtes de nuit. J'ai été une, deux fois quand j'étais à Cotonou, quand j'étais étudiant, je pouvais aller où je voulais, quand je voulais. Mais j'ai été peut-être trois fois, chaque fois j'y allais, je dormais, je m'ennuyais. Et jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas parti, quoi. À mon âge, je n'ai pas été en boîte de nuit 10 fois. Parce que je m'ennuie, parce que ça sent mauvais, parce que c'est pas ça, ne me plaît pas tout simplement. Pas parce qu'on me l'a interdit. Peut-être à un moment de ma vie, on me l'a interdit, sans trop me l'interdire, mais ce que j'ai compris de la boîte de nuit fait que même si personne ne m'en empêche, franchement, je considère que c'est du gaspillage de sommeil que d'aller s'asseoir dans un endroit pour voir les autres s'agiter et puis pour s'agiter soi-même. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais c'est pour vous montrer que quand vous prenez certains plis, si par exemple votre maman vous a éduqué pour réveiller tous les jours à 5 heures du matin, même si vous avez que pas les gens à midi, à 5 heures, vous allez d'abord vous réveiller. Quitte à vous endormir après. Il faut que très tôt, l'enfant prenne des bonnes habitudes, comprenne en quoi c'est pour son bien et le fasse avec plaisir. Après, quand les influences arrivent, il est plus préparé à y résister. Dernière chose que je dis à ce sujet, ce qui détruit beaucoup d'enfants, c'est paradoxalement, c'est pour ça que les mamans en ont peur, c'est le bédido là. Si vous voyez un homme qui devient coureur de jupons, c'est généralement à cause de ses amis. Quand vous voyez une femme qui est malsaine, c'est généralement à cause de ses amis. Cela ne veut pas dire qu'il est mauvais d'avoir des amis. Mais il y a des gens qui sont trop dépendants de leurs amis. Il y a des gens qui sont tels que quand ils sont dans un groupe, je ne sais pas si c'est pas snobisme ou quoi, ils ont envie de faire comme tout le monde dans le groupe pour ne pas paraître bizarre. Vous pouvez par exemple avoir votre fils qui est bien éduqué, il respecte sa femme, il est poli, il ne découche pas. Il va dans un groupe par exemple, il a plein d'amis qui sont là, sa femme l'appelle, il lui parle gentiment, d'accord ma chérie, ne t'inquiète pas, je viens bientôt. Il raccroche, il va dire, quel idiot, c'est à ta femme que tu parles comme ça? Parle comme ça, ça va te montrer sur la tête, tu vas voir. Toi tu es un homme, tu es quelque part, ta femme t'appelle, tu te permets de t'expliquer comme ça. Tu n'as qu'un compte à lui donner. Nous on est là jusqu'à 3h du matin, je rentre quand je veux, ma femme ne veut pas parler. Et puis les amis commencent, c'est comme ça, vous ouvrez la bouche. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Les amis commencent à le manipuler, à lui donner l'impression que c'est lui qui est un idiot. C'est lui qui n'est pas un garçon. C'est lui qui est un bébé. C'est lui qui ne peut pas parler à sa femme. Il entend ça une fois, il va résister. Deux fois, il va résister. S'il n'est pas éduqué, c'est pas la valeur, mais pour apprendre à ne pas faire pour faire plaisir, mais à faire ce qu'il croit juste. Ça, c'est aussi un caractère développé chez les enfants. La capacité à avoir des convictions et à les défendre jusqu'à la mort. Si votre enfant est éduqué pour, comme on dit, il est dans un groupe, il veut se fondre dans le groupe. Moi, je connais des gens, ils sont là, si on vous critique, ils vous critiquent. S'ils sont dans un groupe, on vous félicite, ils vous félicitent. Ils sont dans un groupe, on vous aime, ils vont vous aimer. Ils sont dans un groupe, on vous insulte, ils vont vous insulter. Ils n'ont pas d'opinion. Ils veulent faire plaisir à ceux qui sont majoritaires autour d'eux. Si votre enfant a ce caractère-là, quelle que soit l'éducation que vous lui donnez, quand il va dans des groupes comme ça, si c'est une fille, si c'est un garçon, où les gens vont lui faire des influences, même s'il n'était pas méchant, il deviendra méchant par imitation de ses amis. Dans ce cas-là, il faut donc développer chez lui la conviction, la capacité à avoir des valeurs à y tenir. Et ensuite, si votre mari, vous sentez par exemple chez votre mari, cette tendance à être dépendant de l'influence de ses amis ou votre femme, vous devez surveiller rigoureusement ses amis. Parce que presque toujours, si votre ami par exemple, votre mari est sérieux, il a des amis voyous, s'il a ce trait de caractère, il deviendra forcément voyou, tôt ou tard. Et l'inverse est vrai. Donc, il faut aussi surveiller les fréquentations de vos enfants, surtout quand ils sont très jeunes et quand ils ont des amis. S'assurer que c'est pas parce que sa copine a reçu un sac rouge, elle aussi avait un sac rouge. Son copain a reçu un pantalon noir, il veut un pantalon noir. Cette tendance à dire, maman, mon ami, papa, mon ami, si vous encouragez ça, vous développez chez l'enfant la tendance à vouloir faire pour suivre, au lieu de faire parce que c'est bon. Il faut lui montrer, lui, sa maman lui a acheté un pantalon noir pour telle raison. Moi, je n'aime pas les pantalons noirs pour telle raison. Dans la vie, on ne fait pas tout ce que ses amis font. Si vous le laissez toujours vivre par imitation, le jour où ses amis font le con, il aura envie de faire le con, quel que soit ce que vous lui aurez appris. C'est compliqué d'éduquer un enfant, hein, mais que le Saint-Esprit vous y aide. Quelques dernières questions, il y a déjà 22 heures. C'est très passionnant, hein, mais bon. Priez, priez beaucoup pour l'éducation de vos enfants, priez pour vos enfants, Dieu va vous y aider. Le temps passe très vite. S'il n'y a pas d'autres questions, Mme Braille va venir conclure.
Chers invités, merci pour la patience. Moi, je suis restée sur ma faim. Je voudrais que vous applaudissiez pour montrer à M. Guilibi que vous l'avez bien suivi et que vous êtes heureux de l'avoir entendu. Monsieur Guidibi, je suis fondée de l'école Saint-Bernard-Marie et bonjour les bébés. Mais je ne suis pas seule. Monsieur qui était à côté de moi, qui est à côté de moi, est fondée aussi de l'école Les Étendards. Bon, il y a encore d'autres écoles ici, Baobab et quoi? La Fraternité, voilà, dont les fondés ne sont pas là, ni les directeurs. Et j'avoue que quand j'ai pensé la chose, soyons des parents responsables. J'ai pensé, je suis allée voir M. Guy. Je ne sais pas ce qui m'a conduit à lui. On avait d'autres relations. Donc, quand je l'ai abordé, j'étais surpris qu'il n'ait même pas hésité. Dès que je lui ai parlé de ça, il a saisi immédiatement. Il n'a pas dit, je vais réfléchir, je vais... Non. Tout de suite, il a accepté à la seconde même, quoi. On dirait qu'il attendait que je sorte le sujet. Ensuite, parce que ce n'est pas la première fois que je fais cette chose, je l'ai déjà fait. Il m'a demandé s'il y avait de l'espace. J'ai dit non, je n'ai pas de l'espace. Il m'a dit bon, je vous reçois au club. Ah, je connais le club, c'est ici. Donc, ça m'a fait un clic et j'ai dit monsieur, et combien ça va me coûter? Il a dit rien. Ah, là encore, j'étais dépassée. Donc, nous sommes ici sans avoir rien payé. C'est une salle que vous pouvez louer pour vos réceptions quand vous organisez un mariage ou tout autre. Ben, il m'a dit rien. Et vous-même, rien aussi. C'est gratuit. Donc, pour cela, faites-lui encore. C'est cette gratuité qui a fait que je n'ai pas hésité à inviter d'autres écoles. J'ai reçu gratuitement. Il faut que je donne aussi gratuitement. Voilà. Et M. Guy, je vous remercie beaucoup. C'est le Seigneur qui vous le rendra. Parce que j'ai appris avec la formation que j'ai reçue hier. Quand vous donnez beaucoup, vous recevez beaucoup. Et ça fait partie des secrets de prospérité. Quand vous donnez beaucoup, vous recevez beaucoup. Voilà. Nous vous remercions. Les parents d'élèves qui sont là, moi-même, parent d'élèves aussi, nous vous remercions pour ce temps que vous avez mis à notre disposition. J'avoue qu'à un certain moment, sinon depuis avant-hier, j'ai commencé par m'inquiéter. Parce que c'est un sujet très vaste. Et je me disais, est-ce que tout ce que je voulais là, il pourrait... Bon, finalement, nous avons eu l'essentiel. Ce serait une continuité. On ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. Il y aura dans ce même thème d'autres rubriques. Parce que nous sommes parents d'élèves, mais nous sommes des partenaires. Nous sommes des collaborateurs. Monsieur Guidi, je n'ai pas d'autres mots. Nous n'avons pas d'autres mots pour vous rendre grâce. Nous vous disons merci. Merci.
C'est moi qui vous remercie. Merci aussi d'avoir sacrifié votre vendredi soir, parce que les vendredis soirs, on est très fatigués après la semaine, pour essayer de devenir plus utile à vos enfants. Je pense que l'avenir de Bénin dépend de ses enfants. Vous savez que je me bats beaucoup pour les jeunes et je crois qu'on ne peut pas rêver d'un grand pays et manquer une occasion d'aider des gens à faire de grands enfants. Donc, que ce soit cette séance ou n'importe quelle séance, le club vous est ouvert gratuitement, ici ou ailleurs. S'il s'agit de faire le bonheur des enfants ou des jeunes, c'est ma vocation, je ne sais rien faire d'autre. Le club vous est ouvert aussi tous les jours. Vous avez la bibliothèque, c'est gratuit. Tous les mercredis et jeudis, comme le disait madame, on fait des formations ici que j'anime moi-même. Les mercredis à 19h, les jeudis à 19h. Tout à l'heure, dès que vous allez partir, nous allons faire ici ce qu'on appelle Gospel Night Club. C'est une boîte de nuit. On va mettre des jeux de lumière, on va danser jusqu'au matin. Il y a l'orchestre, il y a un DJ qui viendra. On danse sur des chansons de gospel. Les gens pensent que c'est des affaires de Dieu seulement, mais si vous êtes dans la boîte de nuit, si on ne dit pas que c'est du gospel, vous ne le saurez pas. Il y a tout, du agbadia, du rap, du R&B, du reggae, de la salsa, du zouk, mais tout ça en gospel. Des jeunes viennent, c'est gratuit. C'est entièrement gratuit, pas d'obligation de consommation. Il y a le bar, si quelqu'un veut boire, il peut boire. Sinon, c'est entièrement gratuit. Et comme l'a dit madame, les gens se demandent, mais pourquoi il fait tout ça? Parce que j'ai appris depuis mon enfance, et ça n'a jamais été démenti, donnez, vous recevrez. Donnez pour faire le bien. On ne vit pour rien, en fait. La vie, c'est quoi? On a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et moi, j'ai découvert dans la vie que les moments où je me sentais les plus heureux, c'est les moments où je donnais. Ce n'est pas le moment où je recevais. Je vous invite à faire la même chose. Dans vos familles, soyez heureux. Et surtout, n'hésitez pas à donner à vos enfants. Surtout de votre temps, de votre amour, Si vous êtes dépassé, demandez de l'aide.
Mais ne vous découragez jamais parce qu'il n'y a rien, il n'y aura jamais rien de plus important que de réussir l'éducation d'un enfant. Que Dieu vous bénisse. Je suis entièrement à votre disposition. Ceux qui voudraient la copie, voyez avec Mme Braille parce qu'on a enregistré. Donc, je vais mettre à sa disposition avec les autres écoles. Vous verrez. Pour que ceux qui voudraient avoir des copies, écouter avec leur conjoint, consort, puissent le faire. Vous verrez tout ça avec l'école. Et portez-vous bien, que les enfants se portent bien. On va peut-être trouver le moment de faire quelque chose pour les enfants, le moment venu, parce que j'aime aussi beaucoup les enfants. Je suis même en train de réfléchir à faire un atelier de fabrication, de bricolage pour les enfants. Je ne sais pas encore quand, mais je crois que cette année, je ferai beaucoup de choses pour les enfants. Et à un moment, on va faire aussi un séminaire pour les gens qui ont des bébés, pour les femmes enceintes. Parce que déjà dans le ventre, je peux déjà dire à maman qui est là, vous pouvez commencer à décider la vie de votre enfant. Commencez à lui parler, prier pour lui, prophétiser sur sa vie. Le jour où il naîtra, la minute où il naîtra, décréter des choses sur sa vie, ça accompliront. Et donc, on ne commence jamais trop tôt à travers pour ses enfants. Et quand vos enfants réussissent, rien ne peut dépasser dans une vie le bonheur de voir ses enfants réussir. Que Dieu vous y aide, je le souhaite vraiment très, très, très sincèrement. On est au début de l'année 2013, qu'elle soit une année de bonheur pour vous, une année de succès, une année de paix. Ne regardez surtout pas les problèmes ambiants. Quels que soient les problèmes que tout le monde a, les problèmes de tout le monde ne vous concernent pas. Si vous êtes fidèle à Dieu, si vous obéissez à Dieu, tout le monde peut mourir de faim, vous ne mourrez pas de faim. Moi, je dis l'année dernière, tout le monde a eu des problèmes, moi, je n'ai aucun problème. Mon chiffre d'affaires s'est multiplié par 3. Et cette année, je le multiplierai par 5 ou par 10. Je m'en fous des problèmes. Il y a des problèmes, mais ça concerne les gens qui ont des problèmes. Quand vous croyez en Dieu, vous faites ce que Dieu a écrit sur votre vie, quelles que soient les circonstances. Donc, ne vous laissez pas décourager, les temps sont durs, ça ne va pas. C'est vrai, mais ce n'est pas obligé d'être vrai pour vous. Que 2013 soit pour vous une année de percée surnaturelle, une année d'explosion de bonheur. Et si ça intéresse quelqu'un d'apprendre à le faire, je l'apprends ici gratuitement, tous les mercredis et jeudis à 19h. Et si quelqu'un veut se distraire. Alors pour les enfants, c'est pareil. Moi, j'ai créé Gospel Net Club aussi pour ça. Si vous voulez empêcher les enfants d'aller en boîte de nuit, pour aller fumer, pour aller se droguer, il faut leur proposer autre chose. Parce qu'un jeune ne peut pas ne pas s'amuser. Pourquoi on a créé Gospel Night Club? Un jeune ne peut pas ne pas s'amuser. Il est obligé de se défouler. C'est une pulsion que Dieu a mis en lui. Si vous ne voulez pas qu'il aille là où il y a la drogue, là où il y a l'alcool, là où il y a la prostitution, là où il y a le viol, là où il y a des gens qui les draguent, il faut leur offrir quelque chose. Et c'est pour ça que nous avons créé Gospel Night Club, où les gens viennent gratuitement, c'est sain. On ne peut pas se saouler ici. On fait ça depuis 2 ans. Personne ne s'est jamais battu à Gospel Night Club. Vous imaginez une boîte de nuit qui réunit parfois des milliers de personnes quand il y a des manifestations, où personne ne s'est jamais battu. On n'a pas cassé une bouteille à Gospel Night Club depuis 2 ans. Des jeunes viennent gratuitement, ils s'amusent, ils se défoulent gratuitement, ils voient qu'on peut s'amuser sans se pervertir. C'est un défi que nous devons être capables d'offrir à nos enfants et vous êtes toujours le bienvenu ici. Alors, bon rafraîchissement, rentrez bien et à très très bientôt.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Pouigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution